Bonsoir tout le monde, vous écoutez le MAC du SAV de la F1, le seul podcast qui parle de de Formule 1. Shinji n'est pas là, il est en vacances. Comment ?
Ne quittez pas.
Ne quittez pas, vous êtes bien sur son répondeur. Voilà, bon, puisque c'est moi qui anime l'émission ce soir, on va parler des soldes. Tiens, on va changer, on va changer de sujet pour ce soir.
Ça y est, je comprends notre auditeur qui n'est pas très fan de tes analyses. Voilà, ça y est. Parce que tu as un fan, Jennifer.
Enfin, c'est vrai.
Quelqu'un qui, quand il sait que t'es dans l'émission, il vaut mieux pas qu'il prenne la route.
C'est vrai.
Parce que tu l'énerves.
Tu me le présenteras, tu m'enverras le lien sur Twitter. J'irai le saluer avec plaisir.
Et donc, Jennifer, nous ne sommes pas seuls?
Non, on n'est pas seuls. Je crois bien, mais je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a Ben.
Non.
Bonsoir, chef.
Oh, le faillot. S'il faut savoir qu'on a appris juste avant l'enregistrement que, en fait, Jennifer, elle aimait bien quand on lui disait chef.
Voilà.
Donc, du coup, bah, voilà.
Donc, pendant toute la soirée, vous allez m'appeler chef, maintenant.
Voilà. Il y a des limites aussi, hein.
Moi, je voulais dire maîtresse, mais elle est pas d'accord.
Non, chef, je préfère.
Pourtant, Shinji, il aime bien quand je l'appelle maîtresse. Donc on rassure, hein, Shinji va bien, il prend juste des vacances, voilà. Il glande, voilà. Il s'est dit, bon, ça fait quand même 4 ans que j'anime le SAV, que je suis là dans toutes les émissions, donc je vais peut-être prendre une pause. Et il a choisi, voilà, il reviendra frais comme un gardon pour le Grand Prix de Hongrie, et ça fait plaisir. Il aura plein de choses à
lui
dire.
C'est ça. Et en tant que chef, j'ai accepté de lui donner ses congés payés, exactement.
payé, on va peut-être en rediscuter, parce que...
C'est pas toi qui l'ai pas aidé, non ?
Justement, c'est pour ça qu'on va en rediscuter.
D'accord, ok. Bon, à partir du moment où il est sympa avec moi, je lui donne, donc après il se débrouille avec toi. Donc bah, on va passer au quiz, il me semble, le quiz du Ta Gueule.
Le service après-vente de la F1 vous présente... Le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Ah, ce soir, on peut pas te dire ta gueule, toi. En fait, ça va jouer entre toi et Ben. Enfin, entre Ben et moi. Mais comme c'est moi qui pose la question, ça risque de jouer entre moi et moi, en fait. Oh non. Parce que personne va oser dire à Jennifer ta gueule.
Non, vous êtes gentil.
Même si c'est une femme, on n'osera pas.
Non.
Bah, j'ai mis un ta gueule à Shinji, quand même.
Ah oui, c'est vrai. Oh, bah, tout est possible, alors.
J'ai plus peur de rien. Non, mais c'est pour relancer un peu le suspense. Sinon, c'est pas drôle.
Non, mais c'est pas drôle. Faut m'en donner un aussi, si besoin. Si j'ai trop de conneries.
Ah bah, pourquoi on a pas dès le début de l'émission, hein, ta gueule?
c'est con que le quiz est pas déjà fait. Hein. Est-ce qu'on a droit à plusieurs ta gueule?
Non, il y en a droit qu'un seul.
Soirée, ou pas.
Un seul.
Vous avez même droit à 150 ta gueule, puisque c'est le chiffre des jours, c'est le chiffre 150.
C'est en relation avec la Formule 1, je suppose?
Tout à fait. Pour une fois, profitez-en.
C'est une unité de mesure?
Non.
C'est quelque chose qu'on peut quantifier. Enfin, c'est un nombre de grands prix ou...
C'est quantifiable.
Un nombre de
grands
prix, d'accord.
C'est le nombre de caméramans qui vont se retrouver au chômage suite à la décision de la FOM.
3 ou 4 mois après, ouais, c'est bon. Mais non, c'est pas ça.
Merde. C'est un nombre de grands prix, un nombre de...
Non.
Est-ce que ça concerne un pilote en particulier?
Non.
Non.
Ça concerne une équipe en particulier?
Directement, oui.
Une seule ou plusieurs?
Plusieurs.
Donc ça concernerait un motoriste?
Non.
C'est sur une année de championnat ou sur plusieurs années?
Les 150, non, ça n'a même aucun rapport avec le championnat.
D'accord. C'est concernant des équipes qui sont actuellement dans le championnat, par contre?
Oui.
C'est un chiffre qui est arrêté ou ça peut...
un chiffre qui est arrêté.
Donc c'est pas un record, ça ne peut pas être battu?
Oui, ça peut être battu, mais une prochaine fois. Mais c'est foireux ce que je vous raconte.
Si tu fais pas d'efforts, déjà que enfin tu n'as pas les plus forts à ce petit jeu-là. Bab et Gus Gus, que faites-vous?
Alors, peut-être que Gus Gus devrait arriver dans le courant de l'émission, donc peut-être que d'ici là, il arrivera, il donnera la réponse et vous dira ta gueule.
Dans 2h30, il pourra peut-être nous donner la réponse.
Bah, allez, Barra, il n'y a pas une éphémérite avant à faire?
Non.
Merde.
On peut enregistrer du stock si tu
veux. 150.
Bon, tu disais que on peut quand même le battre, donc c'est quelque chose qui a lieu à un moment donné, durant une journée.
Bah, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Je pourrais pas vous dire si c'est le record, qu'il y a eu pour ce type de choses.
C'est quelque chose, enfin, ça s'est arrêté il y a longtemps ou, c'est récent comme nombre, comme chiffre?
C'est récent. Mais en fait, vous êtes, revenez vraiment sur qu'est-ce que c'est que les 150.
C'est un nombre de, je sais pas, de peut-être de produits qui peut être...
Non.
Non ?
Donc ça ne concerne pas toutes les écuries de la, du championnat actuel.
Non, j'ai même envie de dire, ça, concrètement, ça n'en concerne aucune directement. Indirectement, oui, elles y sont plus ou moins associées. Il y en a une en particulier qui est associée. Il y en a deux autres qui y sont plus ou moins associées. Mais normalement, ça n'en concerne aucune des trois.
Et
aucune
ah, c'est de pas cinq. En relation. C'est Marussia et Sauber qui sont en relation, par exemple, avec une équipe de foot.
Oui, mais non.
Oui, mais non. Oui, t'as pas répondu à ma question, oui ou non?
Oui, Marussia et Sauber sont partenaires avec les équipes de foot, mais non, ça n'est pas ça.
D'accord.
Je vous aide. 150, c'est 150 personnes. Ah, en fait, je ne vous
ça
aide pas.
Ça nous a inspiré, quoi. Ça nous a encore plus inspiré, tu vois.
C'est le nombre d'employés que la FIA va envoyer pour vérifier que les usines sont fermées au mois d'août.
Non, parce qu'ils seront, ce sera le même inspecteur qui était aux essais de Barcelone en avril dernier. Ouais. Donc on peut avoir confiance.
Bah, totalement.
Est-ce que ça peut être le nombre de VIP qu'invitent les écuries, les VIP des sponsors?
Alors j'ai envie de dire que ce sont des VIP, mais ils sont pas invités par une écurie.
Ils sont invités
c'est,
par.
Ça concerne
de...
Pirelli.
Ça concerne pas Pirelli. Ce sont des gens, c'est 150 personnes qu'on a invitées.
Ils ont été invités par Bernie.
Non.
Non.
Je suis même pas sûr que vous connaissiez le nom de la personne qui les a invités.
Et ils ont été invités tous en même temps ou
tous en même temps.
Tous en même temps. Sur un Grand Prix en particulier.
Non.
Donc c'est pas sur un Grand Prix.
Non. C'était entre deux Grands Prix, entre les deux derniers Grands Prix, le 1er juillet. Donc.
C'est pas. Non.
Donc c'était le lendemain du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Lendemain du Grand Prix. Ouais, parce que sinon j'allais penser à Goodwood, mais ça, Goodwood c'est un peu plus tard. Cette semaine.
Donc, ah, il y a eu le lendemain. Alors je sais pas si c'était le lendemain, mais effectivement il y avait une sorte d'assemblée après le Grand Prix de Silverstone. Je sais plus, il y avait Marussia qui était présente en tout cas.
C'est vrai que vous êtes nus en fait à jouer.
Ah ouais, grave.
Mais totalement. C'est le nombre de VIP qui étaient invités au procès Mercedes.
Non. Ils étaient invités pour découvrir quelque chose.
Ils ont été invités dans une usine
non.
De F1. Bah non, parce que ça concerne pas une équipe en particulier, tu m'as. Donc ouais. Alors, je crois que tu vas me le dire, je vais te dire c'est ça. Ça va me venir. On peut passer à la suite et je te réponds dans une heure.
Non, ça marche pas comme ça.
Il y a pas eu genre je sais pas quand c'était mais le salon du Bourget c'était quand? C'était le à ce moment-là?
C'était un peu avant je crois et non ça a aucun rapport. C'est à ce moment-là qu'ils avaient effectivement au salon du Bourget, ils ont présenté le V6 ouais. Renault de l'année prochaine mais non c'est pas ça.
Ouais, ça s'est fait dans la foulée du procès Mercedes, hein, ça.
Non, c'est vraiment le lien, ça serait même à la limite avec le Grand Prix d'Angleterre. Même si ça concerne pas ni Silverstone ni le Grand Prix d'Angleterre, mais ça s'est fait le premier parce que il y avait le Grand Prix d'Angleterre avant et je pense que ça convenait à tout le monde que ça se fasse le premier.
Ça s'est déroulé à Silverstone ou à Londres à ce moment-là? Silverstone?
Ni à Silverstone ni à Londres.
D'accord.
En Grande-Bretagne?
En Grande-Bretagne.
Y a pas eu un forum fauteuil quand
non.
même.
Non, il était après le Grand Prix du Canada, celui-là, je crois en plus.
Ouais, ils en font régulièrement, ouais, je comprends pas pourquoi.
Pour faire croire aux fans qu'on les écoute.
Ah ouais.
Un bel objectif.
Ils ont réuni les 150 derniers fans de Massa.
Non, ils sont beaucoup moins nombreux.
Ah, vrai?
Ouais. Ils ont mobilisé une équipe de 150 personnes pour retrouver le dernier fan de Massa. Et ils cherchent encore. Parmi ces 150 personnes, allez, est-ce que je peux vous donner des noms? Il y avait Martin Brundle, il y avait John Cooper.
On est vraiment trop nuls.
Il y avait Christian Horner.
C'est tous les grands noms des écuries en fin de compte.
Ouais, c'est des grands noms de la F1 et un grand nom de Red Bull. C'est là que vous avez l'écurie qui est indirectement associée à cet événement, qui a réuni 150 personnes.
Ah, il y avait. Ah, il y avait une course de caisse à savon.
C'est le. Ça, ouais, c'est un lien non. avec les caisses à savon.
Ça, c'était hier, je crois, hier ou avant-hier. Enfin, c'était ce week-end. Alors que ce dont je vous parle, ça s'est passé le 1er juillet. Ces 150 personnes étaient réunies pour rendre une sorte d'hommage. À participer à une sorte d'hommage.
Oh, c'est la statue de Adrian Newey.
Bravo Ben, la vache. C'est effectivement le nombre d'invités qui étaient conviés le 1er juillet dernier au dévoilement de la statue de bronze d'Adrian Newey à Mallory Park, un circuit britannique, parmi lesquels on retrouvait donc dans ses invités Christian Horner, Martin Brundle ou encore John Cooper. Cette statue représente Adrian Newey, casque vissé sur la tête, un calepin et un stylo dans les mains. L'ingénieur britannique qui reste à ce jour le seul à avoir remporté le titre avec trois constructeurs différents, de mémoire.
Williams, McLaren, voilà. Et Red Bull.
J'adore, d'un côté le rire, de l'autre, Williams, McLaren et Red Bull.
Non, mais de toute façon, faut être gentil, j'ai le droit du ta gueule, hein, ce soir. Donc,
il reste à ce jour le seul à avoir remporté le titre avec trois constructeurs différents, et il rejoint une prestigieuse collection de statues que l'on peut admirer gratuitement sur les abords du circuit de Mallory Park, puisqu'on y retrouve, notamment Colin Chapman, John Surtees, Mike Aylward et Jim Clark. La preuve, s'il en est, que Adrian Newey est devenu, est aujourd'hui une des figures mythiques de l'histoire de la Formule 1. Et donc, voilà, c'était l'inauguration de cette statue. Si jamais vous passez à Mallory Park, vous pourrez admirer Adrian Newey comme s'il était en vrai devant vous, mais en bronze.
Il est tout nu ou il est habillé?
Il est tout nu.
Ah non, mais c'est bon, alors. On va passer, moi.
Oui, mais il a des vêtements au-dessus de lui, pour cacher sa nudité.
Piquer le slip rouge de Superman.
Voilà, c'est bien, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de développement, ça compense le temps de recherche.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est là qu'on fait une pause dans l'enregistrement. Hein.
Oui, on a dit qu'on s'arrêtait toutes les demi-heures, on ne doit pas être très loin.
19 minutes.
Ouais, on est trop balèze à ce sujet-là. C'est...
Donc, bravo Ben, hein, tu auras le droit de dire à l'un d'entre nous, y compris, ça serait marrant. C'est... Le mec dit ça pour éviter un ta gueule, attention. Hein. Ça serait marrant, c'est quand Gus Gus arrive, direct un ta gueule. Il va rien comprendre, il saura pas, on lui dira pas de qui vient le ta gueule. On va laisser le mystère.
Non, mais il va finir par nous détester si ça continue.
Ouais, il y a des chances.
Le pauvre. On le maltraite.
Ou alors ce sera soit Jennifer, soit moi.
Voilà.
Avec une petite préférence pour Jennifer, mais c'est...
J'ai déjà dit que je trouvais que t'avais une très jolie voix, Ben.
ouais.
Avec un magnifique accent.
Il y en a qui ont eu pour moi ça. Pour des vannes moins pourries.
Qu'il faisait même pas.
Ouais, mais il l'a répété, il aurait pas dû, c'est dommage. Ouais. Dans le brouhaha général.
Bon, bah on va passer aux actualités, au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Donc d'ailleurs, la première actu, c'est concernant Sauber, le cas Sauber, qui on n'entend parler que d'eux, d'ailleurs, en ce moment.
Oui, c'est bien, ça fait un peu de pub.
Voilà.
Depuis
voilà.
Le début de saison,
en même temps,
ils
en ont besoin, hein. Ils en ont besoin de la pub.
Ouais, c'est comme ça qu'ils ont acquis des nouveaux investisseurs. Oui,
voilà, c'est ça.
Ils ont dit, on parle beaucoup d'eux, c'est bien d'avoir le logo sur la voiture.
Bien cette équipe qui est sur le bord de la faillite.
Et qui n'avance plus du tout, d'ailleurs.
Oui, qu'un pilote...
Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils ont des mauvais pilotes. Hein.
Non, je suis pas d'accord.
Ils ont un mauvais pilote, parce que
Gutiérrez
n'est pas mauvais.
Ils ont un très mauvais pilote.
Non. Mais est-ce que le présentateur de l'émission doit pas rester un peu impartial, tu vois? Il me semble. Hein.
Il paraît que Shinji a essayé d'introduire ça à une époque.
D'ailleurs, on ne sait absolument pas quel pilote supporte Shinji.
Je cherche toujours, même moi qui le connais. Pourtant, on est amis depuis plus de 10 ans maintenant. Je cherche encore.
Tu ne sais toujours pas. C'est...
Je serais incapable de te dire. Ça se trouve, il est fan, mais à un truc genre Button, tu vois.
Voilà.
Ça
se trouve. J'allais dire Hamilton, sinon, mais.
Ouais. Ou alors Vettel, tu vois, encore pire.
Il est fan de Massa. C'était lui le dernier fan, en fait.
Rappelez les 150 chercheurs.
C'est pour ça il est parti en vacances. Il s'est fait huer.
Il faut qu'il décompresse. Vous comprenez, il est fan de Massa, donc voilà. Là, il a besoin de congé.
Non, donc le cas de Sauber, c'est quoi? C'est les sponsors russes qui sont arrivés.
Oui.
Ouais, qui remplissent les caisses.
Bah, voilà.
C'est quand même une assez bonne nouvelle. Apparemment, ils arrivent avec une grosse valise.
Voilà. Et un pilote qu'ils ont trouvé au fond de leur poche.
Oui, mais c'est parce qu'il est encore très petit, pour ça.
C'est ça, c'est ça. Il a que 17 ans, il a un poil qui lui pousse sur le menton, et puis... Alors, j'ai retrouvé juste son prénom, je crois que c'est Sergueï,
ouais,
mais j'ai pas retenu son nom.
Rokine, le nouveau Kimi Raikkonen.
Il ne sera pas aligné pendant les Rookie Days.
Ça ne sera pas un des plus jeunes pilotes de Formule 1, après, s'il est vraiment titularisé
l'année prochaine, ouais, 17 ans, c'est le plus jeune. Je crois que le plus jeune, c'est Alguer Suari, et je crois que c'était 19 ans.
Ah oui, ouais, je l'avais oublié.
Même Kimi Raikkonen, qui est arrivé en précoce, qui avait fait que 18 ou 19 courses, je crois. Kimi Raikkonen est arrivé, il devait avoir 21 ans. Donc là, 17, c'est extrême, ouais. Quoi. Surtout quand on songe qu'il a commencé le karting à 13 ans.
Ah oui, donc ouais, sa carrière est pas
voilà, énorme. Ça fait grosso modo 4 ans qu'il a 4-5 ans de carrière en compétition. Bon, après il a vite progressé, bon, il a aussi un papa qui l'aide bien puisque il est capable de contribuer à mettre une partie de l'argent dans les 170 millions qui vont renflouer Sauber, mais voilà, c'est vrai que on peut se poser des questions sur ce jeune pilote. Je pense surtout que c'est même pas que, enfin, on pourra parler du talent. On est même plus au niveau du talent. C'est-à-dire que pour le coup, comment est-ce qu'on peut juger du talent ou pas d'un pilote en sachant que là cette année il est en World Series by Renault, mais c'est sa première saison. Enfin,
c'est sa première année en plus.
Il a 17 ans. C'est très très difficile de pouvoir diagnostiquer. Il y en a d'autres aujourd'hui. On parlait un peu en off des pilotes qui seront au Rookie Days. Enfin, des mecs qu'on voit arriver depuis très longtemps, des Magnussen et compagnie qui sont plus vieux. Alors pourtant, on les voit arriver depuis pas mal de temps. Stoffel Vandroom, là.
Van Dorn.
C'est presque pareil.
Stoffel, quoi.
Pareil, ils sont plus vieux, quoi. Donc, c'est surtout l'âge. Je pense que
non, mais c'est ça. Et moi qui suis un petit peu les World Series, même en formule, les Formule 2, enfin, je m'en rappelle pas en avoir entendu parler de lui l'année dernière, en tout cas. Hein. Je m'en rappelle pas de lui l'année dernière. Même pas sûr qu'il était dans
le championnat. Il y a un Belge à gagner le championnat.
Ouais, non, mais c'est ça. On sait pas qui c'est. Hein.
Non, mais c'est vrai que Sirotkin, moi, j'ai un peu découvert. Maintenant, c'est pas parce qu'il est soutenu par les Russes qu'il sera forcément à 17 ans, peut-être même 18 l'an prochain, qu'il sera forcément dans la Sauber.
En plus,
ça peut être un investissement sur le plus long terme.
Il y a déjà un problème, c'est qu'il va falloir lui obtenir sa super licence. Pour ça, il va falloir faire du kilométrage. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, justement, lors des essais jeunes pilotes, parce que pour faire les essais jeunes pilotes, il faut la super licence. Donc voilà, il va falloir trouver un moyen de lui faire faire du kilomètre à bord d'une Formule 1 pour qu'il puisse avoir sa super licence. Donc déjà, ça, c'est le premier objectif qu'ils ont. Donc quand on voit de là où il part, se dire qu'il sera dans un baquet de Formule 1 en tant que pilote titulaire en 2014, en sachant que 2014, il y a quand même des petites nouveautés qui arrivent en Formule 1, pour moi, c'est limite criminel que de laisser un jeune pilote comme ça, au-delà même du talent. Il faut peut-être le laisser d'abord mûrir en World Series by Renault, peut-être qu'il va devenir un très bon pilote. Mais le mûrir en World Series by Renault, je crois qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a dit peut-être aussi faire une saison en GP2. Voilà.
Oui, c'est ça. Il peut encore, ici en 3.5, il peut très bien faire une deuxième saison l'an prochain, passer en GP2 l'année d'après et arriver seulement dans 2-3 ans en Formule 1. Donc... voire ne jamais arriver si les investisseurs se rendent compte que qu'il est mauvais.
Mais... c'est ce qui est un peu inquiétant, en fait. C'est-à-dire que quand on lit le discours des investisseurs, parmi lesquels on rappelle quand même qu'il y a son papa, même s'il se murmure qu'en fait tout ça, ce serait des sociétés bidons et des soutiens bidons, et qu'en fait ce serait de l'argent qui serait directement payé par Vladimir Poutine et le gouvernement russe. Bon, ça c'est dans des détails techniques, mais on sent bien quand même dans leur discours que c'est quasiment fait pour eux dans leur tête. C'est voilà, en 2014, il sera pilote titulaire chez Sauber. Ouais, mais non. À la limite, si c'est un projet pour vraiment promouvoir un pilote russe, un peu à l'image de ce qu'a fait Williams avec Bottas, en le faisant intégrer, en le faisant faire des essais par-ci par-là, puis peu à peu, d'ici 2-3 saisons, avec l'objectif d'en faire un titulaire en 2015, 2016, 2017, pourquoi pas. Mais là, dès 2014, je vois même pas pour la Russie en quoi ça peut être une bonne image. Ou alors c'est Raikkonen. Effectivement, non. Comme dit son papa, c'est le nouveau Raikkonen. Il défonce tout l'année prochaine au volant de la Sauber.
Ouais, mais enfin ça, tu peux pas. Comme dit Raikkonen quand il est arrivé, on le savait pas non plus. Mais non, c'est quand même délicat. Le problème aussi de ces jeunes pilotes là, c'est que comment tu veux faire des essais avant, quoi. Donc t'es quasiment embarqué dès le départ. Je pense que j'ai lu ça, c'est Hakkinen qui se plaignait aussi de ce genre de truc. Les jeunes pilotes aujourd'hui, quand ils arrivent en Formule 1, ils ont aucun bagage F1. Ils ont aucune opportunité de vraiment rouler. Prendre un peu faire leur place, quoi, de prendre leur repère, découvre vraiment sur le tas, ce qui explique aussi sans doute que maintenant les jeunes pilotes fassent plus d'autres erreurs que ce que ne faisaient certains autres débarqués, même si on a eu des jeunes pilotes. Button n'avait pas une grande expérience, Raikkonen non plus a fait beaucoup de casse, mais
ouais, quand même, ça se voit même cette semaine. Enfin, les rookie days, il y a une journée qui sera dédiée aux pilotes titulaires. Mais l'inconvénient, c'est que cette journée, on a laissé le choix de l'organiser à discrétion des écuries. C'est-à-dire que chaque équipe va pouvoir mettre ses titulaires, l'équivalent d'une journée, quand ils veulent. Bah, les équipes, elles ont vite réfléchi, elles se sont dit, on est à Silverstone, et on va mettre les pilotes titulaires l'après-midi, là où les conditions sont les meilleures. Donc, du coup, les jeunes pilotes se retrouvent pour la plupart du temps dans les équipes qui font rouler leurs titulaires, notamment par exemple chez Red Bull, se retrouvent la plupart du temps à rouler la matinée, là où la piste est pas et voilà est pas encore bonne et compagnie. Donc voilà, ils vont juste rouler quoi, faire des tours. Pas vraiment dire que ce soit véritablement bon non plus pour l'apprentissage quoi.
Après, je crois que Sauber voulait le mettre le vendredi matin, le nouveau pilote, là, Sergei, j'arrive pas à dire son nom. Sirotkin.
Ouais, mais là, de nouveau, il faut qu'il ait la super licence.
Ouais, donc, c'est vrai.
Pour prendre part à des séances officielles, que ce soit des essais ou peu importe la séance du week-end, il faut la super licence.
Ah, ouais,
c'est ça. Il faut même déjà pour les rookie days. Donc, je pense que la seule, et encore, je suis pas sûr, circonstance dans laquelle il la faudrait pas, c'est les essais d'avant-saison, mais je suis pas sûr.
Mais il me semble que déjà Gutiérrez,
non, je sais pas comment tu dis Wolf
avant. Enfin voilà, c'est que je pense même avant les essais de d'intersaison où tu dois avoir la super licence. Mais le moyen de l'avoir, ça va être de faire des journées promotionnelles. Voilà, donc peut-être qu'effectivement.
Ouais, mais enfin, elle devient bidon alors dans ce cas-là, la super licence. Si tu obtiens ta super licence parce que t'as fait X kilomètres en pleine ligne droite.
Non, ou autrement, il y a pas. Ridicule, ils peuvent rouler avec des anciennes Formule 1, non, c'est ça? Enfin, je me rappelle, j'avais vu un. Je sais plus si c'était sur Auto Plus, non, Automoto, j'avais vu une émission où on voyait Bianchi rouler avec l'ancienne Ferrari de 2009, ouais, qui faisait des développements sur
bah, la. Ça, c'est lors des journées promotionnelles. C'est-à-dire que pendant l'année, ils ont un certain nombre de journées promotionnelles qu'ils peuvent faire avec. Je crois que c'est des pneus qui sont fournis par Pirelli, qui sont des pneus dédiés vraiment. Juste à ces journées-là, et ça ils peuvent le faire et ils ont une certaine liberté. La condition c'est de pas le faire avec des voitures de la saison en cours, en tout cas qui correspondent au règlement en cours.
Ouais, c'est de moins de 2 ans, non, il me semble, c'est ça.
Tout à fait. Et donc voilà, c'est le seul moyen. Donc c'est-à-dire qu'il faudra quand même organiser cette journée de roulage pour pouvoir permettre à Sirotkin d'avoir les kilomètres pour pouvoir faire des essais ensuite. Et après, encore une fois, est-ce que c'est une bonne chose pour ce jeune pilote de le sortir de sa progression, de la World Series? C'est aussi ça, ce que je trouve toujours stupide de la part de certains investisseurs, c'est de sortir un jeune qui se sont embêtés à faire progresser dans les séries. À peine arrivés dans une série, ils sont déjà en train de sortir la planche à billets pour le faire aller ailleurs. Qui le laisse peu grandir en World Series by Renault et qui voient déjà si ça vaut le coup d'investir autant sur lui. Là, quand même, on parle de 170 millions de dollars ou d'euros, enfin le taux de change est pas énorme non plus, pour avoir ce pilote là pour s'offrir une vitrine l'année prochaine, c'est l'année prochaine pour le circuit de Sochi, avoir un pilote russe, à la limite autant mettre ça et s'arranger pour offrir un volant à Vitaly Petrov, et voilà, là au moins on sait qu'on aura un russe qui sera prêt pour la F1 et qui sera pas ridicule.
Surtout qu'en plus actuellement dans le championnat World Series, enfin il est que 8e, je crois qu'il a gagné des points en Espagne, il a gagné des points, il a dû finir 4e, je crois la meilleure place, et après une fois à Spa, mais sinon il a jamais marqué de points, donc c'est vraiment ça. On voit bien qu'il débute aussi même là-dedans, même dans cette promotion.
C'est misé sur le talent.
C'est un peu, enfin,
d'un pilote dont pour le moment on est incapable de dire s'il a vraiment le talent qu'on pouvait avoir un Raikkonen, c'est miser sur le talent pur en mettant totalement de côté tout ce qu'il va pouvoir apprendre dans les séries inférieures.
C'est ça.
Ouais, et puis on parlait dans la dernière émission avec Thibault Larue de la prise de risque dans la titularisation des pilotes. Certaines équipes prennent justement pas assez de risques. Là, c'est presque un risque stupide parce qu'on a aucune, il n'y a pas le bagage derrière. Si quitte à prendre des pilotes de Formule 3.5 ou de GP2, il y a d'autres noms qui pourraient sortir. Mais évidemment, ils n'ont pas la nationalité, ils n'ont pas le soutien financier. Mais là, dans ce cas-ci, ce serait clairement du risque. Risque stupide parce que voilà, il a 17 ans.
C'est même étonnant de la part de Sauber.
Il aura 18 l'an prochain. Ouais, mais Sauber, s'ils ont besoin d'argent.
Ouais, mais enfin, c'est quand même une grande. Même s'ils ont besoin d'argent, c'est quand même une grande. Enfin, moi, je reste quand même convaincu. D'ailleurs, Sauber, ils disent oui, l'année prochaine on la ligne, mais que ils savent très bien qu'à un moment donné, ça sera pas possible, qu'il va y avoir un tollé et que les partenaires russes vont être obligés de se raviser, de dire non, mais en fait, on va construire sur le long terme. Parce que, enfin, c'est moi, ça m'étonne vraiment que Sauber se dise oui, l'année prochaine, on va mettre un pilote de 17 ans.
Ouais, mais c'est dans ce sens-là que je veux dire que Sauber dit pas catégoriquement non aujourd'hui, parce que je pense que le besoin d'argent devenait quand même assez urgent. Au Nürburgring, on n'a pas arrêté de parler de la situation financière de Sauber, c'était l'info la plus brûlante du week-end, et je pense qu'ils avaient clairement besoin d'argent rapidement, et que les Russes sont arrivés, et que voilà, il y a un pilote. La porte est entrouverte, elle est pas complètement ouverte, mais elle peut très bien se refermer tout aussi vite. Parce que voilà, eux veulent l'aligner, mais Sauber n'a pas vraiment dit qu'il serait en piste.
Et puis c'est, après... vraiment, c'est vraiment un risque là en plus. L'année prochaine, il y a les nouveaux moteurs. Ça veut dire que c'est un pilote qui sait même pas, enfin qui sait pas forcément développer la voiture. Il a jamais fait ça. Il a jamais même, il a même pas été pilote d'essai, rien du tout. Il même pas pilote de développement. Donc pour les nouveaux moteurs de l'année prochaine, c'est quand même.
Dire qu'ils ouais. pouvaient se permettre cette année de prendre Gutiérrez qui manquait un peu d'expérience et compagnie parce qu'ils avaient le temps. Ils avaient un règlement qui leur permettait de quand même faire rouler leur pilote. Et c'est vrai qu'on a vu Gutiérrez à Jerez et Barcelone très 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 actif en piste, beaucoup apprendre. Et on voit qu'il a encore du mal et que à Barcelone, je crois, il sortait encore l'excuse de ah oui, il faut encore que j'apprenne, j'ai encore des choses à apprendre. Donc déjà, rien que ça, quand on voit un pilote qui a pourtant connu une intersaison quasiment idéale pour un rookie, qui a beaucoup roulé...
il a fait beaucoup voilà. de formules de promotion, en plus.
On voit qu'il a déjà du mal.
Il était la, oui, l'année dernière, il était pilote d'essai, en plus, je crois, déjà, Gutiérrez, il me semble, chez
Sauber. Ouais, mais il a pas beaucoup roulé, je pense, quand même, un troisième pilote Sauber. Mais en termes d'expérience, il me semble, de mémoire, qu'il avait pas beaucoup moins d'expérience qu'un Pérez, par exemple, en débarquant. Hein. Donc, maintenant, il fait moins bien. Mais bon, la voiture est moins bonne aussi.
La voiture est moins bonne, ça c'est sûr.
Peut-être relativiser un petit peu, mais...
Mais bon, il y a quand même beaucoup d'écart entre Hülkenberg et Gutiérrez à chaque fois. Hein, donc,
Alors c'est la bonne nouvelle, c'est
que... Attention qu'Hülkenberg, je pense quand même qu'Hülkenberg c'est quand même pointure. Ouais. Faudrait pas qu'il végète trop longtemps dans des petites équipes. Mm. Non, le syndrome Heidfeld,
c'est la bonne nouvelle d'ailleurs pour Hülkenberg, c'est que l'argent qui rentre va permettre de payer les factures en retard, notamment les factures le salaire d'Hülkenberg, parce que ça veut dire qu'ils ont entre guillemets l'assurance de garder Hülkenberg jusqu'à la fin de saison, ce qui est déjà bien, de payer le moteur Ferrari, parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient ces derniers jours comme quoi Ferrari pourrait tout simplement ne plus livrer ses moteurs après le Grand Prix de Hongrie, rumeur qui avait quand même été démentie entre-temps, payer aussi tous les autres prestataires de l'équipe qui ne sont plus payés, et même s'il y a eu des démentis comme quoi non, les salaires avaient connu des décalages mais avaient pas forcément avaient quand même été payés, de pouvoir régler tous les impayés de salaires et etc, pouvoir donner un peu d'air aux équipes et en ça c'est une bonne chose.
Ouais, puis en soi, enfin, même le sauvetage sur lui-même de Sauber est une bonne chose, parce que si Sauber disparaît, tu peux quasiment considérer que la moitié du plateau peut faire totalement pareil. Si Sauber est dans la merde, Williams l'est tout autant. Force India, la situation peut aussi ne pas être exceptionnelle. À part Toro Rosso, dans la deuxième partie de plateau, toutes les équipes sont... on s'en doute, on sait qu'elles ont des difficultés, mais si Sauber saute, c'est un step en plus, quoi. Là, on passe d'une... Les équipes pourraient disparaître à... Ah bah là, elles vont...
C'est une autre réalité, quoi. C'est ce qui est intéressant avec le cas Sauber, c'est que ça fait quand même depuis 3 ans qu'on a les nouvelles équipes. On a eu HRT, on a eu Port pour Marussia, Caterham a plutôt été à l'abri, mais il y a quand même toujours eu plus ou moins une inquiétude, on va dire, justifiée par la jeunesse de l'équipe et par aussi le fait que... Que ça a changé beaucoup de nom et compagnie à propos de Caterham, mais en fait on se rend compte que c'est pas ces équipes-là aujourd'hui qui sont directement le plus en danger. Les équipes qui sont le plus en danger, c'est les équipes traditionnelles, les équipes limite historiques, Sauber et Williams, qui sont peut-être aujourd'hui dans l'état le plus critique. Là où Caterham arrive quand même malgré tout à s'en sortir, notamment en misant sur son identité malaisienne, en faisant venir les sponsors, et ils sont assez novateurs quand même malgré tout, Caterham, dans leur manière d'investir. Et puis aussi Marussia qui, mine de rien, arrive quand même malgré tout à survivre. C'est difficile, on le voit en termes de développement, que c'est difficile de suivre le rythme, ne serait-ce que le Caterham, mais ils arrivent toujours à survivre. Et aujourd'hui Marussia, on n'a pas d'inquiétude vraiment pour 2014, sauf grosse surprise et gros trou dans la caisse, mais on n'a pas vraiment d'inquiétude. Là où pour le coup on est
surtout qu'ils annoncent un moteur.
Là où pour le coup on est plus inquiet pour effectivement Sauber, pour Williams, pour Force India, donc faut quand même se rappeler que Force India, il y a à peine un an, on faisait l'objet de rumeurs à peu près identiques à celles de Sauber, comme quoi ça allait être vendu, que c'était plus possible, Gemalia était au bord de la ruine. Donc voilà, c'est aussi peut-être une orientation à suivre pour les équipes, c'est-à-dire en termes de communication, en termes de management, en termes de, il y a peut-être aussi à apprendre des équipes traditionnelles, de ces nouvelles équipes qui arrivent et qui, de briques et de broc, arrivent quand même à rester à flot. Et on prend Marussia qui en est à sa 4e saison de Formule 1. Enfin,
ouais. Et c'est ça aussi dans le cas Sauber, c'est que si dans l'absolu HRT elle ne manque à personne, je pense, Marussia et Caterham elle manquerait pas forcément un grand monde, mais Sauber ça fait quand même depuis 20 ans qu'elle est là, elle fait clairement partie du paysage et de l'histoire, quoi. Alors Williams on n'en parle même pas, mais donc c'est, même à ce niveau là c'est un autre symbole, si des écuries comme ça commencent à disparaître, c'est un autre signe la situation est clairement pas géniale par rapport à HRT, Marussia et Caterham. Ça n'émeut pas grand monde si ces équipes-là ne sont plus là. Mais des écuries comme Sauber, Williams, même Force India, mais... l'impact serait totalement différent, même au milieu du public.
Mais après, je pense aussi que ce sont les résultats qui font. Alors, même si on voit que Sauber, l'an dernier, les résultats, ils ont pas su capitaliser sur ces résultats-là. Ce qui amène aussi à relativiser la puissance financière de Telmex, dont on dit que aujourd'hui Gutiérrez, il est là, il justifie son baquet juste grâce à Telmex.
Mais il donne moins que prévu, hein. Le soutien est quand même très très faible par rapport à ce qui était l'an passé. Et apparemment, même chez McLaren, le soutien de Carlos Slim n'est pas aussi grand qu'espéré.
Mais en fait, c'est ça qu'on apprend. C'est-à-dire qu'on a un peu fantasmé le soutien de Telmex. Le soutien de Telmex était important, mais il a jamais non plus, et c'est ce que d'ailleurs a toujours dit Carlos Slim, il a jamais non plus été mirobolant. Rien de comparable au soutien de PDVSA, par exemple, ou rien de comparable au soutien de Cirrus qui mettent 170 millions sur la table. Donc voilà, c'est ça aussi qui arrive de relativiser, c'est de se rendre compte que on a un peu vécu l'année dernière avec les résultats et avec la présence de Telmex, on a un peu vécu sous le mirage que Sauber était sur la pente ascendante. Et là, on se rend compte, bah oui, il suffit d'une mauvaise voiture qu'un pilote s'en aille, on va dire que Kobayashi est très bien remplacé par Hülkenberg quand même, mais voilà, le binôme est pas aussi équilibré que l'an dernier. Et là, d'un coup, l'équipe très vite dévisse et se retrouve rapidement au bord de la faillite. C'est vraiment fragile, quoi. C'est même ça qui fait dire, par exemple, que on peut s'inquiéter aussi pour Lotus. Parce que Lotus, tout a l'air bien, mais quand on commence à avoir des rumeurs comme quoi ils ont de la dette et compagnie, bah oui, il suffit que l'année prochaine la voiture soit plus si bonne, qu'ils aient plus forcément des pilotes aussi efficaces que cette année, notamment Kimi Räikkönen, et rien ne dit que l'année prochaine Lotus ne va pas dévisser. Donc,
il y a quatre équipes qui, à mon avis, aujourd'hui sont financièrement entre guillemets à l'aise, quoi. C'est Red Bull, Ferrari, McLaren, et encore McLaren le dernier week-end. Comme des rumeurs qui circulaient comme quoi ils étaient quand même plus aussi si à l'aise que ça, et Mercedes. Et encore, Mercedes, le jour où Mercedes décide d'arrêter les frais,
oui.
Ça c'est un autre problème, mais de nouveau, là, si les résultats suivent pas, l'argent n'arrivera plus pour d'autres raisons, quoi.
Mais en fait, aujourd'hui, il y a quasiment qu'une seule écurie qui est vraiment sûre d'être en Formule 1, c'est Ferrari. Parce que on voit ouais, McLaren, ouais. Effectivement, McLaren, il suffit de voir la mauvaise année qu'ils ont, les changements de moteur à venir, et on commence déjà à s'inquiéter, à se poser des questions, est-ce que c'est la nouvelle Williams, c'est pas ni, même si je pense que McLaren va s'en sortir, parce que c'est une grande équipe, mais il y a aussi le fait qu'ils se sont mis en constructeur derrière, enfin voilà, ils se sont un petit peu, on va dire, éparpillés, un peu à l'image de Williams aussi, qui a développé ses activités. Williams, c'est une entreprise florissante dans le civil, avec ses technologies et compagnie, ils ont des partenariats partout, pourtant en Formule 1, c'est très difficile financièrement, alors que l'entreprise Williams Engineering fonctionne bien. Et on voit aussi du côté de McLaren, c'est pareil, le constructeur McLaren fonctionne bien, mais ça demande beaucoup d'investissements qui à la base sont venus de l'écurie McLaren. Donc voilà, c'est aussi ça qui fragilise les équipes. Red Bull, ça peut partir n'importe quand si Dietrich Mateschitz se décide. Ouais. Mercedes, si le board décide de partir, Mercedes ça peut partir, et les autres derrière, on connaît la situation financière. Donc en fait, il y a vraiment qu'une équipe dont on est sûr qu'elle sera là l'année prochaine. Et dans les 10 ans à venir, c'est Ferrari. Même quand ils disent « bon, on va peut-être partir », on n'y croit pas.
Oh, ça fait des années qu'ils le disent, donc ouais.
Mais bon, après, c'est toujours pareil. Hein. Les sponsors, ils sont également attirés par les résultats des écuries, malgré tout, malgré ce qu'on peut dire. Donc, quand tu vois les voitures de Williams depuis 3 ans, effectivement, je pense pas que ça attire... Les résultats attirent pas énormément de... Enfin, attirent pas les plus grands sponsors, quoi.
C'est vrai, c'est un mélange de résultats et d'images que tu renvoies. Enfin voilà, c'est bête, mais quand tu vas au champ de course pour miser sur un cheval, tu mises sur le cheval qui a l'air en bonne santé, pas celui qui a l'air malade. Donc effectivement, aujourd'hui, un sponsor, c'est un investissement qui, sur certains sponsoring, on se rappelle du contrat Marlboro qui valait, je crois que c'est 100 millions de dollars par saison, juste pour qu'il n'y ait pas le nom Marlboro sur la voiture. Mais comme ça, il louait à livrer. Voilà, le contrat Santander est du même Maccabi, le contrat Vodafone est très cher aussi. Voilà, c'est quand même il y a quand même des sponsors qui viennent mettre de l'argent et qui prennent un risque. Ce risque, il faut garantir. Donc du coup, le garantir, c'est aller sur une équipe dont tu as de fortes chances qu'ils puissent gagner. On voit que même Lotus a un peu de mal, malgré tout, à tirer. On a beaucoup parlé de Burn et de Coca-Cola. Bon, c'est pas non plus encore le gros sponsor qui permet de tout éclater et qui s'affiche en gros.
Oh, c'est ça. Surtout qu'il l'annonçait au départ, on s'attendait vraiment à un gros sponsor comme.
Tout le monde s'est dit Burn, c'est Coca-Cola. Ah là, dis donc, c'est la grosse panne financière. Et en fait,
je vois même pas où il est le logo sur la voiture. Je sais
sur
pas.
Les droits, il est sur les écrans. Vois,
ouais, c'est ça.
Il est
sur les voilà. Gourdes des pilotes, c'est tout.
Sur les côtés, sur les flaps de côté, sur les flaps au-dessus.
Et c'est là
aussi. Mais c'est vrai que c'est très discret. Hein. En plus, enfin, moi, le logo sur la voiture noire, ça aurait claqué. Quoi, sur les pontons, ça aurait pu être très très beau.
Ben, on va passer à la deuxième actu, les Rookie Days. Donc, ben, on a pas déjà parlé des jeunes pilotes un petit peu. On a également des jours qui sont, on va dire, attitrés aux pilotes titulaires.
Et qui y aura-t-il lors de ces essais?
Oui.
Ah, si seulement quelqu'un avait un tableau sous la main. Un tableau. D'ailleurs, on envoie un message au site, globalement. Je sais même pas si Fadefa a fait un point sur ça. Mais.
Non, on n'a pas fait. Voilà,
non, il n'y en a pas.
Et en fait, il y a beaucoup de line-up qui ont été dévoilés aujourd'hui, donc.
Voilà, c'est tout simple de bon, faire un petit tableau, quoi. Voilà, un petit tableau, c'est merde. Il y a certains sites, ils se font chier à faire des tartines pour nous dire si. Le line-up.
Eh ben, Fadefa vient juste de le faire, tu vois.
Ah. Et il y a un petit tableau?
Ouais.
Ah bah voilà, Fadefa, c'est un bon site.
Voilà.
Bravo, Fadefa.
C'est le meilleur en même temps. Hein.
Je savais qu'il y en aurait un.
C'est le meilleur.
C'est qui? Faut qu'on balance son nom.
C'est Clément.
Clément
qui a fait ça. Ah bah bravo Clément. L'occasion de saluer tout le travail de nos rédacteurs.
Ah ouais, c'est ça, 3 jours d'essai, une journée consacrée au pilote titulaire suite au déboire de Pirelli.
Avec des règles strictes, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de. C'est d'ailleurs ce qui justifie, par exemple, que Alonso n'y soit pas cette semaine parce qu'en fait, ils s'en foutent.
C'est qu'ils s'en foutent.
S'ils testent des trucs avec les titulaires, c'est uniquement pour tester en rapport avec les pneus. Donc c'est juste des réglages avec les pneus et compagnie.
Moi,
donc,
j'ai vu que la FIA avait autorisé des essais justement. Elle avait autorisé que les titulaires puissent tester autre chose que les pneus.
Oui, mais ça.
Ils sont peut-être revenus en arrière depuis. Hein.
Mais ce que j'ai cru comprendre, ils pourront tester des choses, mais à condition que ça s'inscrive dans la compréhension des pneus, dans le fonctionnement des pneus. Donc techniquement pas d'essais de nouvelles pièces, ça sera théoriquement les jeunes pilotes qui feront les essais.
Alors il y a Red Bull qui nous a mis un jeune pilote qui est pas du tout connu, hein, qui s'appelle Ricardo.
C'est peut-être la plus belle info de ces essais finalement, c'est que voilà.
Comment une liste de 3 devient une liste de 2 ?
Mais voilà, parce que dans les autres pilotes, les jeunes pilotes, Da Costa, c'est pas une surprise, Carlos Sainz Jr., c'est pas une surprise non plus, dans les autres écuries, c'est pas de grosses surprises non plus, hein,
Il y a beaucoup de fils de pilotes, effectivement.
Voilà,
il y a Checoto, je crois, il y a Sainz Jr., il y a Magnussen,
il y a Prost.
Il y a Prost, il y a pas mal de fils de pilotes cette année.
Ouais.
Il y aura peut-être le fils Grosjean.
Il est même
et
pas
donc,
arrivé
il y aura Ricciardo chez Red Bull. Red Bull qui fait appel à Ricciardo, c'est un peu surprenant. Surtout que le plus surprenant, c'est qu'il ne demande pas à Vergne aussi de venir rouler.
C'est étonnant, dis donc.
Donc de là à penser que Vergne est un peu out pour la course au baquet Weber, c'est pas un raccourci facile à faire. Quoi.
Je tiens à dire que Red Bull a décidé d'équilibrer les choses. Vergne roulera en démonstration sur le A1 Ring, enfin le Red Bull Ring, ce week-end, lors du meeting des World Series by Renault. Moi, ouais. Je trouve que ça équilibre.
Mais il me semble que Ricciardo a fait la même chose il y a un mois de ça, il me semble aussi. Oui.
Ah bah alors ça équilibre pas en fait. Excusez-moi.
Non, ça équilibre pas. Non, non.
Non, mais clairement, ouais, ça désigne un favori dans le clan Toro Rosso. Voilà, on sait qui a gagné la. En même temps, ça fait pas mal de temps qu'ils tiennent le discours en disant ouais, Ricciardo est le favori, compagnie. Même Vergne disait bon, l'année prochaine, Toro Rosso veut bien me garder, ça peut être intéressant et compagnie. Donc. Ça fait que confirmer le sentiment général.
Ouais, malheureusement. Ça confirme aussi que tout n'est pas encore joué, a priori, avec Raikkonen. Quand il se prépare quand même chez Red Bull un plan B au cas où. Quoi.
Oui. Après, ça peut aussi être un écran de fumée. Hein. C'est justement faire croire qu'il y a encore match. Pour au final, non, il n'y a pas match, parce que le contrat est déjà signé. Kimi attend juste de faire une annonce.
Ah ouais, certains dans les commentaires sur le site ne manqueront pas de dire que si Raikkonen s'est signé.
C'est peut-être aussi, alors comme on sait qu'il y a une réunion qui est prévue que Eric Bouly a dit que ça se déciderait au mois d'août.
La réunion normalement entre Raikkonen et Lotus a eu lieu la semaine dernière.
Donc on peut quand même penser que du côté des frères Robertson, qui sont les managers de Raikkonen, on essaye de jouer un un petit peu entre les deux et de faire monter les enchères. Donc c'est peut-être aussi un moyen pour Red Bull de dire, mais vous savez, nous Raikkonen on le prend, mais on a aussi d'autres solutions en interne, et de mettre en avant Ricciardo chez Red Bull en disant, voyez, nous on est prêt à faire rouler Ricciardo en essai avec la Red Bull, il n'y a pas de problème. Donc un moyen de contrebalancer l'argument de Raikkonen qui serait de dire, ouais, non mais nous on a Lotus, et comme ça Red Bull peut dire, ouais, mais nous on a Ricciardo.
Ouais, parce qu'il y a souvent un jeu de...
Il suffirait qu'il fasse des temps canons. Moi, je sens gros, sincèrement, je prophétise quelque chose. Je pense que Ricciardo va faire un temps canon cette semaine. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que Ricciardo a un temps dont on ne saura strictement rien, qui sera peut-être fait réservoir vide. D'ailleurs, il y aura peut-être aucune pièce dans la voiture, sauf Ricciardo. Mais il va nous claquer un meilleur tour, juste pour dire, vous voyez, Ricciardo, il est fort. On pourrait très bien le prendre à la place de Raikkonen.
Oh, tu crois qu'il lui laisserait faire un meilleur temps que Vettel?
Ah bah non.
La première journée, il peut très bien faire le meilleur temps de la journée.
Il peut pas battre Vettel quand même.
Très bien faire le meilleur temps de la première journée.
Il va nous l'énerver dès le premier jour.
Parce qu'en plus, la première journée, si tu regardes le line-up, enfin le line-up de la première journée, c'est le seul pilote... ah non, il y a Max Chilton, pardon. Attends pour moi. Mais sinon,
oui,
c'est
mais...
le seul pilote
d'expérience... Non, mais c'est presque pareil.
C'est le seul pilote d'expérience qui sera aligné, quoi. Parce que le matin, chez Red Bull, c'est D'Acosta. Chez Ferrari, c'est David Reagan. Prost, chez Lotus. Chez Mercedes, mais qui roule chez Mercedes? Enfin, Magnussen...
Ils aimeraient
chez McLaren, etc. Donc, le seul pilote d'expérience. Donc, ce serait pas étonnant, en plus, au volant d'une des meilleures voitures de Fiona, passe le meilleur temps la première journée, c'est clair ça.
Bah en plus, ça reste quand même derrière la Mercedes, la voiture qui a le mieux performé à Silverstone. Mm-hmm. Il y avait les Mercedes et les Red Bull, et puis les autres derrière. Donc, on peut quand même penser que théoriquement, s'il n'y a pas un gros chrono qui sort, surtout si on cherche vraiment à lui faire un gros chrono, ce que je pense sera le cas, ça devrait être bon quand même à un moment donné.
Polonais.
Oh non.
Bonsoir.
C'est à ce moment-là qu'on aimerait lui mettre un ta gueule.
Ah oui, comme j'ai pas participé au jeu, du coup, oui, je suis... Oui, bon,
ouais. T'es quand même... Tu ne sais pas qui c'est qui peut te dire ta gueule.
Effectivement, je ne sais pas
non,
d'où peut venir le poignard.
Ça sera la surprise.
Vous allez bien?
Ça va et toi?
Oui.
Pour tout te dire, en fait, on a commencé l'émission avec Margot Lafitte, ça s'est super mal passé.
Donc, les bandes d'enfoirés. Hein? Regardez-moi cette bande de vendus qui fait des blagues de très mauvais goût sur Facebook.
Alors, il faut raconter que donc après l'émission de Thibault Larue, quand on a terminé l'enregistrement, on était sur Facebook et donc Gus Gus est venu nous demander alors comment ça s'est passé. Et je sais plus qui a commencé, je crois que c'est Ben.
Ouais. Bah, c'est facile de se décharger sur les autres, monsieur Dino.
Oui, c'est Ben et moi j'ai enquillé vite fait. On était encore sur le logiciel qui nous servait en chaîne, donc on se parlait encore. Et on a fait croire à Gus Gus que ça s'était très mal passé, au point que au final tout le SAV était en train d'imploser et ça s'est fini par un magnifique c'était quoi déjà, c'est mêle-toi de tes affaires,
triple mêle-toi de tes affaires,
voilà. Donc un
non, le truc le plus magnifique à la fin, c'est quand même ma réponse, c'était ah bah au moins vous êtes d'accord sur une chose.
Ah ouais, il y a quand même eu 100 commentaires sur le post.
Oui,
n'importe quoi, il faut vraiment être tordu pour faire ça.
Vous m'avez affolé hein, aussi, hein, parce que quand j'ai vu les 100 commentaires, je me suis dit qu'est-ce qui se passe.
Ouais, mais c'est vrai qu'en plus on a bien joué.
Ouais, c'est vrai. Moi, c'est Elder qui m'a déçu, il a couru très vite, mais.
Oui, mais il faut dire quand même qu'on avait une crainte, c'est qu'à un moment donné, il y en ait un qui prenne parti. Pour dire, parce que bon, on sait, il y avait aussi Fab dans l'affaire. Vers la fin, il s'est greffé à nous. Mais on s'est dit, ça se trouve, à un moment donné, on va se faire un reproche. Et il y a que je vais dire, ouais, mais là, pour le coup, Ben, il a raison, Dino. Et là, ça devient plus drôle.
Bon, on en est où, là?
Vous on me parlait des jeunes pilotes qui auraient
dû... Vous troublez le cours de l'émission, je trouve.
Tu sais, on parlait de ces journées pour jeunes pilotes.
Ah, ouais. Voilà.
Et du jeune pilote que Red Bull va aligner. Tu sais, un Australien.
Ah, oui,
là.
Oui.
C'est
Ricciardo,
un tout nouveau.
C'est ça qu'on dit.
Bah, il est jeune, il a 23 ans, non? Ouais. C'est ça?
C'est ça.
Ouais. Une petite expérience. Enfin bon, c'est pas trop d'où il vient.
Ouais, ouais. Mais alors, c'est quoi les règles exactement?
Mais je me demande même si ça va pas à l'encontre des règles des Rookie Days, parce que...
Bah, c'est ça, parce qu'il est pilote titulaire, quand même.
Parce qu'il est pas titulaire chez Red Bull, il est titulaire chez Toro Rosso, donc il pourrait rouler pour Toro Rosso, mais pas pour Red Bull. Et il a...
Le problème, c'est que les règles des Rookie Days, elles ont été réécrites tacitement presque en fait. Il n'y a pas de trace écrite pour les règles.
Oui, mais ils ont dit qu'il y avait une journée seulement pour les titulaires.
Ouais, j'ai bien compris. Mais pour les titulaires de l'écurie en question ou pour les titulaires, tous les titulaires, enfin,
c'est ça qu'il faut voir.
C'est ça, voilà.
Ouais, parce qu'ici Weber va rouler le jeudi après-midi et Vettel le vendredi après-midi. Donc au total, ça leur fait leur journée. C'est vrai qu'il y a Ricciardo qui, bah, c'est un pilote de F1 titulaire dans l'absolu. Hein, donc...
C'est étonnant qu'il fasse rouler Weber déjà.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à la limite, ouais, qu'il t'amette un, pour le coup, ça aurait pu être un truc qu'il t'amette un.
Il t'amette Ricciardo au vert, voilà. Mais t'enlèves Weber, t'enlèves Weber, c'est ça.
Non, t'enlèves Vettel. Vettel n'est plus chez Red Bull en 2014.
Il n'a pas besoin. T'imagines Horner qui dit oui, on gagne assez facilement. Il a pas besoin de ça.
Et là, demain, t'as Vettel qui arrive dans le paddock, qui passe devant le stand Red Bull. Salut les gars, je vais aller.
Non, il va faire les essais en caisse à savon.
Non, mais je vais aller un peu plus loin, vous savez, dans le stand rouge. Ils m'ont proposé de rouler dans la voiture. J'ai dit, bon, écoutez, ça me dérange pas. Vu que Ricciardo me prend ma place,
je vais brosser le cheval cabré.
Et là, il claque un temps. Ah! Et là, vous avez Fernando Alonso qui est toujours en Espagne parce que lui, il est en congé, il est en vacances, il s'en fout. Il prend sa voiture, il fait l'Espagne Silverstone en 3h49 minutes parce qu'il est très rapide. Il traverse la Manche à la nage en 27 secondes parce qu'il est très rapide.
Non, un vélo.
Il arrive et là, il fait Sébastien, tu ne touches pas à cette voiture. Sinon, je te pète la gueule. Mmh. Et c'est pas parce que t'as ton costume de Mario que je ne te taperai pas. Parce que moi, j'ai la moustache de Luigi. Attention.
Bien, bien, bien. On continue.
C'est beau les fours, j'aime bien. Oui, alors pendant ce temps-là, puisqu'on a un petit peu coupé l'émission, tu continues de chercher dans ta tête ce que peut être le chiffre 150.
Oui.
Donc à toi le micro, Jennifer.
On passe à la troisième actu directement ?
Ouais, bon, absolument. Les essais jeunes, en fait, on s'en fout un peu.
Non.
Il y a un sujet dont t'es obligé de parler, Jennifer, voyons. C'est même toi qui nous l'a imposé. Sans toi, ça serait pas dans le classement.
Oui, on a une fille, c'est comme dans le SAV, il y a qu'une seule fille, et ben dans les Rookie Days, il y aurait qu'une seule fille aussi.
Ouais. Ouais, parce que maintenant, ça y est, c'est officiel. Ça n'était pas le week-end dernier au Nürburgring.
Ah oui.
Contrairement à ce que de nombreux sites ont essayé de vous faire croire.
Ah oui, il y a eu un combo sur un des sites, c'est monstrueux. Ils ont fait 3 semaines horribilis, quoi.
Ah ouais, donc elle n'était pas hyper excitée samedi matin, notre chère Suzy Wolf, puisqu'elle n'était pas encore confirmée pour les essais jeunes pilotes. C'est maintenant chose faite, puisque en même temps les essais commencent demain, donc il était temps qu'elle soit fixée sur son sort.
Mais non, c'est toujours pas officiel en fait. William, il vient de dire non, c'est pas officiel.
J'ai pas eu l'occasion d'aller lui demander, c'est bête.
Il y a encore 150 pages de contrat à signer. C'est ça, non, c'est pas ça.
C'était seulement hier qu'ils ont officialisé.
Ouais, je pense que l'info est tombée hier. Enfin, c'était un secret professionnel. Enfin, c'était évident qu'elle serait, vu son rôle, enfin son titre de pilote de développement, ça aurait quand même été étonnant qu'elle ne roule pas au moins une demi-journée. Je sais pas quel est son programme exact. Je pense qu'elle ne roule qu'une demi-journée d'ailleurs.
Elle
roule toute la journée du vendredi. Autant pour moi. La journée du vendredi.
Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment la seule attraction de ces essais jeunes pilotes, quoi. Le reste, ça nous dira rien comme de n'importe quelle séance d'essai. À la limite, quel pilote jeune commence à bien tourner par rapport aux autres, mon avis, c'est vraiment le seul point d'intérêt de...
Ouais. On va voir aussi peut-être des pilotes comme Robert Freund ou Kevin Magnussen, parce qu'ils pourront donner, mais c'est vrai que Suzy Wolf, c'est la vraie attraction de... Ouais.
Après, qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir déduire de sa prestation? Enfin, je suis pas convaincu que ça cloue le bec à qui que ce soit ou que ça. Enfin, peu importe le résultat, j'ai envie de dire, ça éteindra pas le débat ou ça apportera pas de réponse, je pense.
Non, mais ça va le nourrir, le débat.
Voilà, ouais.
Ça va être le centre d'attraction.
Pour des données, quoi.
Parce que voilà, effectivement, on saura pas avec une quantité d'essence à le rôle, quel sera son programme exact, etc. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Ricciardo, Williams fasse en sorte qu'elle paraisse quand même pas complètement ridicule, fasse lui laisse au moins un relais à vide avec des pneus. On va pas dire des plus qualifs, mais pas loin, pour qu'elle fasse un temps...
Les Michelin rebadgés. Mais dites-moi, les nouveaux pneus Pirelli, ils ont des rainures ? Oui, c'est en fait, on teste un pneu Pirelli vraiment spécifique, qui lui a des rainures, mais c'est pour ça que c'est normal, c'est... Oui,
mais c'est quoi ces clous sur les pneus ?
C'est un concept ! Faites-nous confiance !
En même temps, la dernière fois qu'il a pris le volant, l'année dernière, ça s'est pas très bien terminé, mais bon.
Ouais, mais c'est voilà, de vrais essais là, organisés,
c'est quand même pour gâcher la fête, c'est forcément la gonzesse, voilà, bien gâcher la fête.
Il rave.
Non, mais on va pas pouvoir comparer ses temps avec, surtout qu'elle roule le vendredi, donc on va avoir on a pas mal de pilotes titulaires. Il y avait Ethel, Massa, Raikkonen.
C'est peut-être ça en plus qui est le plus dur pour elle, en fait.
Ouais. Et on va pas pouvoir la juger par rapport à d'autres jeunes pilotes.
Je pense que c'est ça aussi où, bon, de toute façon, globalement, comme l'a dit Gus tout à l'heure, de les essais de manière générale, pour en tirer les enseignements, faut quand même se lever très tôt, ou se coucher très tard, c'est une option.
On sait toujours pas si Mercedes casse son jeu ou pas. Hein.
Visiblement cette année
plus ou moins
voilà,
ils savent pas eux-mêmes, hein. Ils roulent des fois, ça marche, et là mais dis donc, hier on était 3 secondes plus rapide, je comprends pas.
Mais en fait cette année Mercedes innove, ils cachent leur jeu même pendant les Grands Prix. Oui. Il faut croire qu'ils sont performants, et le dimanche surprise,
ils cachent pas leur jeu entre 13h59 et 14h02 le samedi, en fait.
Alors par contre il y a un truc qui est intéressant, c'est t'as cité le nom tout à l'heure, Ben, c'est Frintz, ouais, qui sera sur la Sauber, je crois que c'est une journée et demie. Ah, et c'est ce qui est intéressant de souligner quand même, c'est que du côté de chez Sauber, alors qu'on parle des difficultés financières, on en a parlé tout à l'heure, ils ont mis quand même Frintz, qui est pas un pilote payant, puisque il a pas d'argent à donner, et qui est vraiment pour le coup un pilote talentueux, l'un des espoirs de la Formule 1. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que cette équipe, malgré ses difficultés, continue malgré tout de rester dans l'esprit de ses rookies days et dans l'esprit d'une certaine philosophie qui est très propre d'ailleurs à Sauber, c'est vraiment d'aider les jeunes pilotes et de leur donner du temps de roulage.
Oui, parce que même McLaren qui vient de dire que Button et Perez seront pas au volant pour rester dans l'esprit des essais jeunes pilotes. Gary Paffett, je suis pas sûr qu'il rentre dans l'esprit des jeunes pilotes.
Je
suis pas convaincu non plus. À part Magnussen, je vois pas lequel pilote dans le programme McLaren reste totalement dans l'esprit. Hein.
Non, c'est vraiment les deux pilotes de développement en plus McLaren, donc ils font pas rouler leur titulaire, mais en même temps ils font rouler les deux pilotes de développement.
Non, de toute façon, bah, ils font rouler les mecs
qui
font du simulateur toute l'année, tous les week-ends, et qui valident les pièces et compagnie. Donc, enfin, des mecs qui connaissent très bien la voiture, qui connaissent très bien le fonctionnement de l'équipe. Enfin voilà,
c'est un bon moyen de vérifier la corrélation simulateur piste, puisque c'est un des problèmes apparemment de McLaren cette année, quoi. Donc,
Et en plus des pilotes qui ont strictement aucun avenir en Formule 1. Enfin,
ah non, une carrière sportive, Paffett. Voilà, pas sûr.
La date de péremption est dépassée.
C'est peut-être
des bons pilotes, mais on...
Je suis pas sûr. Je suis pas spécialiste, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont encore alignés.
Il paraît que Timo Glock fait du DTM.
Maintenant, je peux me tromper.
Il paraît.
Il a fait un podium, d'ailleurs, je pense, déjà.
Vous allez vexer Alexandre, là.
Voilà, Timo Glock. J'ai l'impression rien que d'y repenser.
Bon bah on va passer à la troisième actu.
Ouais.
On a eu trois actus qui sont arrivées ex aequo dans le podium. Là on va parler de la décision de la FIA et de la FOM qui ont décidé de nous dégager les journalistes de la pit lane.
Je pense que c'est quand même surtout une décision de la FOM. Hein. Avec la FIA.
Je crois que c'est surtout la FOM.
Alors, je pense que la FIA regarde derrière en disant on laisse faire ou en disant rien du tout.
Pour être exact, la FOM a dit que les équipes de télé étaient virées de la pit lane même pendant les essais libres, parce qu'elles avaient déjà pas le droit d'être là pendant les qualifs et la course. Et la FIA a interdit à tous les autres journalistes, à tous les détenteurs d'un pass média, donc Fan F1, les sites, que la FOM s'occupe des accréditations payantes, hein, avec les droits de diffusion, etc. Et la FIA des accréditations gratuites pour les sites web, par exemple. Et donc la FIA a dit que toute personne accréditée n'aurait plus accès à la voie des stands, devrait être sur le muret. Donc elle doit rester sur le muret pendant la course.
À ceci dit, les accréditations, en tout cas les accréditations de Fan F1, ne nous donnent de toute façon pas accès à la pit lane. On a accès paddock, accès à aller se promener autour de la piste comme n'importe quel spectateur, pas tribune. Mais les salles de presse forcément, mais pour avoir des accès pit lane, je pense que c'est plus les journalistes photographes qui eux ont des accès pit lane pendant les grands prix, parce que si t'envoies tout le monde, c'est le bordel, forcément.
Bah, quand tu fais les essais, moi j'ai pu faire Manicourt.
Quand
tu fais les essais, comme généralement tu peux être à la fois photographe, comme il n'y a pas beaucoup d'équipes et compagnie, que c'est plus détendu, tu peux être à la fois photographe et journaliste, donc du coup tu signes juste une déclaration d'assurance et tu peux aller dans la pit lane. Mais effectivement, c'est normalement plutôt l'endroit, enfin un journaliste n'a rien à foutre dans la pit lane. La pit lane, c'est typiquement l'endroit où on fait des photos, où on prend des images, mais les journalistes en soi, sauf si c'est pour la télé, ils sont dans la salle de presse, ils sont dans le paddock.
Oui.
C'est là qu'est leur boulot, les journalistes. entre guillemets, les vrais journalistes qui font des articles ou qui font des reportages, leur boulot, ils se trouvent de l'autre côté du mur.
Et enfin, vous pensez que la, que les, enfin, là, toutes les chaînes de télé, etc., vont pas, enfin, ils vont râler, quoi, à force.
Alors, j'ai lu un papier de Thibault Larue.
On a lu le même.
Ouais. Sur son blog, qui est très virulent envers, envers Bernie Ecclestone et la FOM, parce que pour lui, c'est, et je pense qu'il a raison, hein, c'est absolument pas une mesure sécuritaire, parce que ça ne règle absolument rien. Il restera des gens, dans la voie des stands, des mécaniciens, etc., qui pourront toujours être percutés par une roue, tant qu'on ne réglera pas le problème dont on a déjà parlé dans des émissions ultérieures, qui est que les arrêts sont beaucoup trop rapides,
les pit stops, ouais.
Et que les mécaniciens n'ont pas le temps de réfléchir à ce qu'ils font, ils agissent par réflexe, et que donc à certains moments, ben les réflexes font que il y a des erreurs de commises.
Oui, et puis même au niveau de, enfin, comme il le, nous on va rebondir sur l'article de Thibault Larue, mais il y a, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements de pneus à la va-vite pendant les essais libres.
Oui, c'est vrai.
Donc, en plus, de nouveau, pourquoi en priver les télés d'être là? Et concernant le fait qu'elles vont gueuler, je pense que certaines chaînes ne seront pas ravies. On pense notamment à Canal+, dont une des plus-values, quand même, je pense, c'est la présence de Franck Montagny pendant ses séances,
ouais.
Dans les stands, qui nous montre régulièrement les ailerons, qui essaye de montrer quand les équipes travaillent. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir parfois les mécaniciens qui se décalent juste pour se mettre dans le champ de la caméra.
La dégradation des pneus, c'est très important.
La dégradation des pneus également. Et de nouveau, est-ce que, c'est... par contre, les équipes vont être ravies? Parce que déjà, pendant les essais hivernaux, des écuries comme Red Bull et Toro Rosso avaient décrété, grosso modo, je caricature, mais à peine, que toute la partie de la voie des stands située devant leur stand est VIP. Donc si t'étais pas invité par l'écurie, circuler, y a rien à voir, quoi. Donc les photographes ont gueulé, pendant la présentation de la voiture, de nouveau, pas de prise de photo, etc., les photographes ont gueulé, donc des écuries comme celle-là, ça va les arranger, c'est clair.
Mais après, faut voir aussi contractuellement, parce que je pense que contractuellement, il doit y avoir des clauses d'accès au pit lane et de, voilà, de ce que vous pouvez faire, et je pense que ça va peut-être aller à l'encontre de certains contrats, notamment de diffuseurs.
Bon, ça Sky, ou je alors... sais pas ce qu'ils font comme programmation, comment ils se débrouillent, mais ça m'étonnerait que Sky n'ait personne dans les stands.
Sky, ils ont Ted Kravitz avec une caméra, ils ont Martin Brundle qui, quand il est pas au commentaire, non, ça c'est la BBC. Il me semblait avoir vu Brundle pendant des essais libres dans les stands, mais en tout cas, ils ont si ce n'est une équipe, deux équipes, si ce n'est une dans les stands pendant les essais libres, quoi.
Sky dans le paddock, tu peux pas les louper quand t'es sur place. T'as l'impression qu'il y a que. C'est-à-dire qu'ils ont des. Tu repères leur télé dans les quatre coins du paddock. Les mecs, ils ont les chemises. Enfin, c'est hallucinant. Donc, à mon avis, des chaînes comme ça vont gueuler. Et ça aura certainement plus options, de poids que Canal+, entre guillemets, qui est petite nouvelle. Excusez-moi, vous êtes qui, quoi.
Ou alors, l'une des options, c'est peut-être aussi de se dire qu'il n'y a pas justement dans les contrats de diffusion de clauses qui précisent le droit à l'accès à l'atlane. Et donc, Bernie Ecclestone profite. Parce qu'on est obligé aussi à un moment donné de penser à Bernie Ecclestone, homme d'affaires, profite de l'occasion qui lui est donnée pour restreindre certains accès et pour, dans les futures négociations avec les équipes, avec les diffuseurs, dire vous voulez réaccéder à la pit lane, bah, va falloir mettre le prix parce que là, en termes de sécurité, on n'est pas bon, donc il va falloir que vous augmentiez le prix, se servir de l'argument sécuritaire pour renégocier certains contrats, voire à la hausse.
Mais est-ce que les caméras de la FOM seront interdites dans la pit lane aussi?
Oui.
Me semble aussi, oui.
Non, j'avais pas bien.
Ils seront sur le mur. Ils ne seront pas sur ce qu'on appelle la voie rapide et la voie de travail.
Mais c'est, en tout cas, s'il y avait une vraie préoccupation pour la sécurité, d'abord, c'est pas le remède magique, parce que c'est pas parce que là, c'est tombé sur un caméraman, c'est tombé sur d'autres personnes. On a eu des pilotes, on a eu des pilotes qui roulaient sur leur mécanicien et on a strictement rien dit. C'est plus facile de virer les journalistes et les caméramans que de virer un mécanicien. Mais par exemple, réduire le nombre de mécaniciens, ça aurait pu être une option qui aurait pu être prise. Ça n'a jamais été fait. De la même manière, là, on va interdire aux journalistes d'accéder à la pitlane lors des essais libres. Juste pour mémoire, lors des essais libres, les mécaniciens, les ingénieurs et compagnie peuvent se déplacer librement, sans système de protection. Mm-hmm. Vous avez des simulations d'arrêt qui sont effectuées lors des vendredis, où les mecs font les simulations d'arrêt. D'ailleurs, si vous regardez sur les photos, les arrêts au stand, vous pouvez trouver sur FanF1, la plupart des simulations d'arrêt que l'on peut voir, ce sont pas des simulations faites en course, mais des simulations faites lors des essais libres. Et là, il n'y a pas de casque, généralement, il n'y a pas de gants,
il n'y a pas de combinaison
unifiée. Sécurité minimum, quoi. Donc, si vraiment on veut mettre, je pense que c'est quelque chose d'important de mettre le débat sur la sécurité dans les stands, et ça, moi je l'ai toujours dit que c'est quelque chose dont on devait être intraitable, c'est pas simplement en virant les journalistes qu'on va résoudre le problème. D'ailleurs, on ne résout pas le problème, on limite le risque.
Oui,
limiter le risque, ce n'est pas gommer les risques. Le risque, il sera toujours là, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y aura toujours les essais de 2 secondes, les arrêts de 2 secondes, qui feront que une roue peut se balader et que ce sera pas un journaliste, ce sera un mécano.
Ah oui, parce que là, pour le même prix, dans la cohue, on a pas tout de suite repéré que c'était un caméraman. Ça aurait très bien pu être un mécano de chez Lotus. Comme l'a dit Gus Gus, on aurait fait quoi? On aurait interdit Lotus de faire des ravitaillements? Débile.
Ah, ils en ont pas besoin, hein. Ils consomment pas trop les pneus.
Ouais, c'est vrai qu'ils en font trop, mais. Ou pas.
Après, je pense qu'il y a aussi ce contexte un peu sécuritaire actuellement en Formule 1.
Ouais,
notamment Pirelli, le week-end qu'il y avait eu juste avant.
Canada.
Il y a quand même, depuis quelques grands prix, on peut aussi reparler de la Marussia de Bianchi qui fait de la marche arrière toute seule. Il y a quand même des interrogations sur la sécurité, et en tout cas en termes d'image, des images qui tendent à montrer que la Formule 1 n'est pas très sûre. Donc peut-être aussi que de la part de la FOM, on a aussi la volonté de limiter le risque de voir ce genre d'image à l'écran, notamment quand quelqu'un est directement blessé par une roue, qui reste quand même, enfin ça restera une image, je pense, qu'on verra dans les bêtises. Ouais. Voilà. Dans les bêtises fin d'année, je pense qu'on verra cette image-là, parce que voilà, un caméraman qui est percuté par une roue dans des stands, c'est spectaculaire.
Mais de nouveau, c'est parce que là, on parle qu'il y a effectivement des choses à faire, et que la FOM profite peut-être parce qu'elle ne veut pas voir ce genre d'image, mais concrètement, pour éviter que ça se reproduise, c'est à la FIA de prendre des décisions, de prendre des mesures. Et de nouveau, la FIA, on ne l'entend pas, quoi.
La FIA.
C'est quand même,
c'est
quand même hallucinant, quoi. On ne l'entend
une
jamais.
Place de la Concorde, on appelle, tout de suite.
Bah d'ailleurs, en parlant de FIA, ça nous permet de voir au niveau d'une autre actu. Donc c'est le changement de règlement qu'ils ont mis en place pour 2014.
Ça tombe bien que tu sois arrivé, Gus Gus.
Oui.
Voilà,
c'est parfait.
Alors,
j'ai pas ma liste, mais il y a un point que j'ai souligné dans ma courte préparation de l'émission ce midi. C'est le processus d'homologation des moteurs, en fait, du power unit même, on va dire.
Oui, qui sera après les premiers essais fin janvier.
Oui, alors ils doivent envoyer à la FIA leur moteur, leur power unit, un exemplaire de leur power unit le 28 février au plus tard. Donc à partir de ce moment-là, le moteur, je pense, sera gelé pendant un an à chaque fois. Et au fur et à mesure, en fait, il va y avoir un gel progressif. C'est-à-dire qu'on va, il y a une liste des différents éléments qui constituent le power unit. Je crois qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'éléments qui ont chacun un poids dans la somme de, enfin, ils sont notés 3 points, 2 points et 1 point. Et chaque année, on va autoriser un certain nombre de points de changement. Et on va geler certains éléments. Donc, ce qui fait que d'ici 2020, à la fin du gel, il restera plus que 5% du moteur qui pourra être modifié chaque année.
Ouais. Et d'ici là, on annoncera un nouveau moteur. Donc.
Oui, bah, c'est fait pour en même temps.
Ouais. Mais
ouais. V2.
Et même en termes de moteur, le système de cette année est très bien. T'as 8 moteurs jusqu'à la fin de l'année, c'est bien. L'année prochaine, vous aurez donc, il faudra utiliser au total 5 blocs moteurs. Mais en fait, vous pouvez, alors, chaque bloc moteur, il y a 6 composants principaux. Vous pourrez donc changer un composant.
En fait, on peut panacher. C'est ça le truc.
Voilà, on peut panacher. On pourrait utiliser, en fait, il y a un total sur les 5 moteurs, il y a un total de 30 composants et, donc vous prendrez 10 places de pénalité quand vous aurez monté un 6e composant d'un certain type. Et après, quand vous aurez fait quand vous prendrez 5 places de pénalité en plus, c'est super compliqué. 5 places de pénalité en plus pour chaque changement d'un autre composant, du 6e bloc, voilà. Et dès que vous passez à un 7e composant, vous perdez 10 places de pénalité. En sachant que ça, par contre, je trouve que c'est une bonne idée. C'est cumulatif. C'est-à-dire que vous prenez 10 places de pénalité, vous qualifiez 25e, vous qualifiez 15e, vous partirez 22e et vous perdrez 3 places sur le grand prix suivant pour faire les 10 places.
Ça va pas plaire à tout le monde, ça.
Ouais,
déjà
bien,
que les gens râlent sur une pénalité par contre.
Je suis pas sûr que ce soit génial non plus. Hein.
Oui, mais ça évitera.
Moi, le système me paraît complètement. Déjà ici,
ça évitera par contre les changements gratuits que peuvent avoir notamment les petites équipes.
Ça, je pense pas.
Alors après, ça peut se discuter, ça évitera.
Ça va pas éviter les changements gratuits parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplacer tout le power unit et qu'ils vont partir de la voie des stands. Ils vont choisir ça. C'est la dernière pénalité du lot, quoi. Quand tu changes tout ton power unit, tu pars de la voie des stands.
Bah, après, ça que tu me diras, par exemple, Max Chilton, bon, il change un composant et il prend 10 places. Bon, il va reculer 10 places d'un grand prix. Le grand prix suivant, il recule d'une place.
Non, il recule même pas.
Le grand prix d'après. Oui, voilà, le mec, il recule même pas. Le mec, à la fin de l'année, on vient le voir, on dit, écoute, là, tu t'es qualifié 13e. Super! Tu te rappelles, en Malaisie? T'as changé de moteur!
Ouais, non, enfin, même au niveau des 6 pièces principales, déjà, aujourd'hui, pour savoir où en sont les pilotes par rapport à leur quota moteur, c'est un peu, un peu compliqué. Alors là, c'est en plus... Ouais, mais celui-là, il est en sixième pièce numéro 1, mais les autres sont encore bonnes. Enfin, bref, c'est le bordel, quoi. C'est peut-être pas plus mal quand la FIA ne dit rien.
C'est peut-être aussi un moyen pour, justement, compenser le fait qu'il n'y ait que 5 blocs à utiliser. C'est se dire que, par exemple, sur certains blocs, il y a un bloc qui sera plus utilisable parce qu'il y a un composant précis qui sera mort, mais tu pourras, malgré tout, utiliser les autres composants. Enfin, voilà, c'est aussi un moyen, comme tu disais, de panacher les moteurs et donc de bah, en fait, voilà, t'as 5 moteurs pour la saison, mais en fait ces 5 moteurs ils peuvent avoir une bonne durée de vie si tu comptes les composants qui vont pouvoir faire plus de grands prix et compagnie. Enfin, si tu arrives à bien panacher,
oui, enfin,
je pense que sincèrement 5 moteurs c'est facilement tenable sur la saison.
Oui, mais ça reste un facteur. Le mec, enfin ça va être pour les vrais fans vont s'intéresser à ça, mais le mec qui va débarquer qui regarde les grands prix entre guillemets par-dessus la jambe, il va être perdu, quoi.
Oui, mais le mec qui regarde ça par-dessus la jambe, il verra un mec qui partira 10 places derrière qui fera une remontée avec une bonne voiture et il verra du spectacle.
Ouais.
Et on lui dira, enfin, il a cassé un truc et c'est la pénalité et machin, quoi. Il y a juste ça à expliquer au final.
Ouais. Voilà. Je suis pas sûr que. Déjà aujourd'hui que tu vois les comment, avec les pneus, etc., on se plaint parfois de pas comprendre les courses, mais si en plus il faut prendre en compte que le mec il a des places de pénalité juste parce qu'il a pas changé son moteur, mais une pièce précise du moteur. Moi je. Mais 6 moteurs sur la saison, alors. Enfin, je veux dire.
C'est déjà en plus ça, c'est vrai que c'est. Même nous, on n'a pas de terme. Enfin, moi je sais quand je fais des articles qui parlent de
power unit, ouais.
J'essaie de parler d'unité de puissance. Mais c'est vrai que c'est ce qu'avait dit Renault lors de la présentation du V6 au Bourget. C'est, il faut changer quasiment de vocabulaire. Et c'est vrai que c'est, dans le communiqué Renault, c'est un truc que je voulais reprendre dans l'article. Parce que c'est vrai qu'on est obligé de changer de lexique. Parce que c'est plus des moteurs, en fait. C'est vraiment un groupe. Propulseur, voilà, c'est une unité de propulsion complète. Voilà, faut plus envisager ça, et c'est là où cette histoire de composants va devenir compliquée, mais en fait, est tout à fait logique. Si on sort de l'idée que c'est un moteur, bah oui, il y a le turbo, il y a plein de choses qui se greffent sur ce bloc moteur. Donc,
non, mais ça, le permis à points, enfin le trust, ça va devenir très compliqué, la formule.
Il va falloir tout calculer, il va falloir suivre maintenant. Parce
tu vas suivre tes grands prix avec un tableau Excel que tu vas remplir.
C'est
lui, pénalité, lui, permis à points,
un tableau croisé dynamique.
C'est ça.
Ouais.
On appellera Dino pour ça.
Ouais. Donc je suis pas totalement...
Mais il fonctionne très bien, ce tableau croisé dynamique.
Mais oui, la preuve, je suis magnifique. Avec. Hein. Ouais, puis il y a le permis à points aussi, donc on va voir si la FIA arrive à suivre également et à respecter au niveau des infractions.
C'est vrai que ça donne un peu l'impression de voir des mecs de la FIA, ils se sont dit bon les gars, là on fout rien en ce moment.
Voilà.
Pour l'année prochaine, on se prévoit du boulot. Ouais,
parce que soi-disant qu'ils le testent en sous-marin. Ils l'ont testé 7 courses et qu'ils ont dit c'est bon. Alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de controverses finalement, donc on se demande comment ils l'ont testé, quoi.
Ce permis à points, je demande vraiment à voir parce que je suis pas convaincu non plus, mais bon. C'est pas dans les actus, donc on va pas peut-être s'étendre dessus.
Non, on en a déjà parlé en plus. Hein.
Ah, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'ils vont donner au début de la saison, un vrai permis aux pilotes.
Un papier rose.
C'est comme dans les écoles. Voilà. Si t'as un petit tampon, c'est que t'as perdu un point. Et quand les mecs ils iront au commissaire, ils vont ramener leur permis. Et là, c'est comment il s'appelle
et c'est Charlie qui tamponne.
Charlie Whiting, il mettra un tampon, clac, t'as perdu 3
points. Mais je crois que c'est le contraire par contre. Ils partent avec 0 point.
Oui.
Et en fonction du nombre d'infractions, s'ils arrivent à 12 points, à ce moment-là, ils sont suspendus d'un grand prix.
Est-ce qu'ils auront le droit de faire un stage?
Faut leur demander.
Ils repartiront en GP2, tu vois.
Ça serait bon, ça.
Ouais, il n'y a pas assez de mauvais pilotes crasheurs en GP2, il faut en rajouter un qui vient de la F1.
Ouais.
Non, je crois que les infractions, elles sont pénalisées entre 1 et 3 points.
Ouais. Je pense que c'est ça aussi. Donc, on ne connaît pas encore le.
Quelles infractions. On ne le connaîtra jamais.
Ouais, bah oui.
Je demande sincèrement, je suis prêt à. Non, je vais pas
mettre ta main coupée.
Je mettrai mon ongle à couper, qu'on ne verra jamais la liste. On va découvrir au fur et à mesure où ça va être appliqué. Ah tiens, cette pénalité-là, ça vaut 3 points. Et puis, bizarrement, à la fin de l'année, on va dire, mais attendez, début de saison, ça valait 3 points, mais maintenant, ça vaut 2 points. Oui, mais il y a des circonstances atténuantes et compagnie. Enfin, voilà,
c'est pas,
qu'on aura jamais
c'est pas impossible, effectivement. Connaissant.
C'est la FIA style. Ouais. 150, c'est le nombre de pénalités possibles en Formule 1.
Non.
Non.
Gus Gus cherche toujours ce que c'est 150. Vous avez la réponse, vous, chers auditeurs, mais Gus Gus, non.
Il va essayer de piquer le ta gueule à celui qui l'a gagné.
Ah, c'est intéressant.
On dira pas le nom.
C'est un nombre de pilotes ?
Même s'il y a des pilotes parmi, mais non.
C'est un nombre de personnes.
C'est un nombre de personnes.
Ah. Est-ce qu'ils sont tous dans la page de StatF1 où il y a le nombre de Grand Prix ? Est-ce qu'ils ont tous pris part à un Grand Prix ? Non, parce qu'il n'y a pas des pilotes.
J'adore quand dès que tu commences à la... Voilà. Voilà.
Oui, j'adore quand tu arrives à faire une phrase. Le gars, il fait une phrase pour essayer de se foutre de ma gueule et finalement, il n'arrive pas à... Les mots ne sortent pas. Je suis inattaquable.
Mais oui, j'étais en train de replacer ta phrase dans ma tête et c'est là que je me suis perdu, en fait.
Ah, ouais. Bon, personne n'est parfait. Hein. Je travaillais 10 heures, moi, aujourd'hui, monsieur.
Bon, sinon, donc, la dernière actu, c'est... Bah, elle est arrivée aujourd'hui, d'ailleurs. C'est Marussia qui sera équipée par les moteurs Ferrari.
Il y avait un package aujourd'hui. Ouais. C'était le package Marussia.
C'était moteur Ferrari et Pat Symonds qui quitte Marussia pour Williams.
Et donc, du coup, Williams, c'est Kouflan qui...
dégage.
Voilà, il quitte Williams pour son canapé, déjà, c'est pas mal.
Pour la CIA.
Ouais. Absolument. Ouais.
Alors, je sais pas si Marussia a donné le nom de la personne qui allait remplacer Symonds.
Mais en fait, Symonds, je crois que chez Marussia, il était
consultant. Il était consultant parce qu'il est toujours, est toujours suspendu, officiellement. C'est 5 ans.
C'est ça le truc, c'est que je crois que sa suspension va arriver à terme et c'est pour ça qu'il se barre chez Williams.
Ouais, enfin, il était consultant.
Le purgatoire chez Marussia est terminé.
C'était un titre officieux, quoi.
Oh, c'était plus ou moins le directeur technique de Marussia.
Oui, enfin, oui. Mais c'est vrai que je pense que l'info est surtout venue. Je sais pas si c'est Marussia qui a officialisé qu'il partait.
Il me semble. Moi, je l'ai lu sur le Twitter de Marussia, en tout cas.
Ah ouais, ça doit être. Enfin,
ils ont annoncé leur partenariat avec les moteurs Ferrari et tout de suite, enfin, un peu de temps après, ils ont dit que justement Symonds y partait.
Enfin, Marussia qui signe avec Ferrari, moi perso, ça me surprend pas plus que ça. Hein.
Non, mais c'était déjà compris dans le. C'est avec le package Bianchi. Enfin, non, Bianchi faisait partie du package Ferrari, je dirais.
Ah non, je suis pas convaincu non plus que Bianchi sera encore.
Jules, viens là, mon petit package. Comment il voit le petit package?
Je suis sûr que Bianchi sera encore chez Marussia l'an prochain, mais...
Tu l'en vas où?
Non, mais je pense que c'était un accord dès le départ pour 2013.
Je pense que ça faisait partie... Mais je pense que ça pouvait aussi faire partie des discussions qu'il y avait eu avec Force India. Je pense que déjà à l'époque, il y avait ça en ligne de mire.
Alors moi j'ai lu une interview, un article sur Bianchi dans lequel il expliquait justement que c'était à chaque fois que c'était comment ça s'appelle, la Ferrari Driver Academy qui lui avait dit qu'il n'était pas pris chez Force India, mais qu'ils étaient actuellement, donc la Ferrari Driver Academy était actuellement en discussion avec Marussia, et c'est pour ça que lors des essais de début de saison, il lui avait demandé d'aller quand même sur place à Barcelone pour éventuellement mouler son baquet si Marussia donnait son accord.
C'est Ferrari qui l'a mis. Hein.
Ah oui, voilà, c'est pour ça que dès le départ, je sais même pas si c'est Todd qui a fait le boulot, que c'est le manager de Bianchi. Je pense que c'est plus Ferrari qui a tout organisé pour son arrivée en tant que titulaire.
La perspective de Sauber a peut-être aussi accéléré les négociations pour que Ferrari trouve un client pour l'année prochaine, un client entre guillemets est sûr, en sachant que sur Sauber, il y a toujours encore une ombre sur la participation en 2014 et sur la fourniture du moteur et également, donc de trouver déjà un client, d'assurer un contrat, parce qu'il faut rappeler quand même que Ferrari a perdu Toro Rosso et que depuis il n'y avait rien qui avait été remplacé, donc se retrouver sans Toro Rosso, sans Sauber si Sauber faisait la banqueroute d'ici la fin de l'année, et puis voir Marussia partir chez Mercedes, même si ça semblait de moins en moins probable au fur et à mesure du temps, c'était peut-être prendre un risque, donc là du coup je suis pas sûr que ce soit vraiment lié là pour le coup aujourd'hui uniquement à Jules Bianchi.
Déjà faire une deuxième saison chez Marussia, ce sera un exploit.
Oui, historiquement.
Mais à part Sauber et Lotus, qui n'a pas de moteur pour 2014? Carton?
Officiellement.
Caterham,
ça a été confirmé, Caterham.
Caterham, je crois qu'ils sont passés chez Renault cette année, de toute façon.
Il y a deux ans, non?
Il y a deux ans. Je crois que Caterham, il faut juste confirmer le moteur.
Oui, parce que je pense que là, par contre, il y a un vrai paquet, je pense, autour de Bianchi, de Pic, pardon. Pas mal.
Oui, puis même, il y a des projets industriels communs, donc. Il y a aucun suspense. Je pense que c'est une question d'annonce, mais il y a aucun suspense du côté de Caterham. Ouais, ce sera Renault l'année prochaine.
Il y a quand même un truc bizarre qui s'est passé au Mans, je sais pas si vous avez vu, c'est que Alpine courait contre Caterham. C'était un peu bizarre, quoi.
Oui.
Je crois que c'est le Greaves Motorsport qui était sponsorisé par Caterham, et d'un côté, t'avais je sais plus quelle écurie qui avait renommé, d'ailleurs, c'est scandaleux, je trouve, son châssis Oreca, il l'avait rappelé à Alpine juste pour dire, ouais, on a amené le nom Alpine, alors si ça débouche sur la création d'un nouveau châssis, enfin bon, déborde, c'est le Mans, ça.
Ah, mais il y a peut-être du gaz dans l'air.
De l'eau dans le gaz.
De l'eau dans le gaz.
150, c'est les expressions bizarres que nous invente Dino depuis le début du SAV.
Oh, on doit pas être très loin. Donc je rappelle pour toi seul, parce qu'il y a que toi seul que ça intéresse maintenant, hein, Gus, faut que tu le saches.
Ouais, et encore.
Pour toi seul, je rappelle qu'il s'agit de 150 personnes, et que ce ne sont pas que des pilotes.
Ce sont des personnages de la Formule 1, tous.
Il y en a quelques-uns, je peux te citer Martin Brundle, je peux te citer John Cooper,
non,
je peux
te citer... Mais ils ont pas tous un rapport avec la Formule 1.
Christian Horner, mais ils ont pas tous ça, non, je pense qu'il y a des gens, il y a de... non.
C'est une sorte de promotion de la reine, l'anoblissement?
Non, mais c'est une forme de reconnaissance.
La Légion d'honneur?
Non. Mais en fait, ces gens-là, ils sont venus en spectateurs. C'est pas eux qui ont été honorés. Ils sont venus voir honorer quelqu'un.
Mmh.
Mais il est bon, il avance vite, hein, c'est bien. D'ici la fin de l'émission, il aura trouvé.
Oh, bon, enfin bon, il a même plus de temps que nous, hein.
Bah oui, mais on a parlé aussi, hein. Je sais pas si t'as
avancé,
on a avancé dans les actus.
D'ailleurs, il serait temps de passer aux actus dont on se fout, non?
Enfin, bon, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Je vais continuer à réfléchir.
Donc, à moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose sur les actus, sur le podium des actus.
Bah déjà, ils sont 5.
Ouais, déjà, un podium à 5 places, moi, ça me perturbe toujours.
Pour moi, l'actu de la semaine, c'est quand même que Shinji ne soit pas là.
Mais on lui a rendu hommage en début d'émission. Si t'avais été là aussi. Arrête de nous retarder. Non, mais franchement.
Écoute, je vais te passer le numéro de téléphone de mon patron. Il va être ravi. D'ailleurs, j'en profite. Vous pouvez me retrouver au Carrefour Express, au 122 rue Châteauvert, à Valence, où nous avons de superbes promotions de 50% sur les saucissons en rayon boucherie. Merci.
Bon, bah, on va passer aux actus dont on se fout à ce moment-là. Puisque...
Entre deux saucissons.
Entre deux saucissons. Bon, bah, on passe aux actus dont on se fout. Qu'est-ce qui est sorti des actus? Bon, allez, juste pour faire plaisir à Shinji, même si elle a pris qu'un point.
Et qu'elle a pas
j'ai
été
découvert
compris
ce que
par
c'était.
L'animatrice.
C'est ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'était apparemment... Alors, je vais reprendre le contenu. F1 2013 de Codemaster arrive avec des voitures, des pilotes et des circuits rétro.
Oui.
Donc j'ai compris que c'était un jeu vidéo.
C'est bien. Sur quelle console ça va sortir?
Il paraît que tu progresses.
Voilà, c'est ça. Ça sort sur quelle console? Je sais pas, sur PlayStation?
Oui, mais laquelle?
Ah, laquelle?
La 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5?
Ah, je suis perdu avec toutes ces PlayStation.
Non, c'est... Ah, mais tu vois, tu me connais mal, Gus Gus. C'est moi qui les offre à chaque fois à mon copain. Je suis un petit peu maso en plus, tu vois.
Ah, c'est bien.
Donc
ça.
C'est la PlayStation 4 qui va sortir.
Oh, bravo.
Ouais, mais elle sera pas vraiment sortie en septembre.
Non,
je vais pas être heureux.
Non, elle sort en mois de Noël. Oh, ils vont la sortir pour Noël. Avant Noël.
Ah oui, mais Formula 1 fin 2013 sera sortie avant.
Mais il sera quand même sur PS4.
Mais sachant que c'est d'ailleurs une actu dont on se fout, c'est pour ça qu'on en parle seulement maintenant.
Mais c'est terrible, c'est quand même une super bonne nouvelle. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup...
Faudra voir.
Faudra voir, mais pour le coup, s'il y a bien un jeu de F1 qui va valoir le coup d'être acheté, c'est celui-là, parce que c'est pas simple une mise à jour des voitures. Là, pour le coup, il y a quand même la possibilité de piloter d'anciennes voitures.
Une dizaine de voitures, je
voilà,
pense.
Faudra voir exactement ce que c'est, dans quel contexte et compagnie. Si c'est juste
alors,
pour faire un petit défi, c'est pas intéressant.
Il y a des circuits en plus.
Ouais, alors dans les circuits, il y a Brands Hatch, il y a Imola, il y a Jerez et un quatrième, je pense, mais je l'ai plus sur le bout de la langue. Et au niveau des voitures, normalement, il y aura une dizaine de voitures des années 80 et des années 90. Par contre, il y aura deux versions du jeu. Il y aura une version classique avec tout le contenu des années 80 et 90, voitures et circuits. Et la version normale, moins chère.
Tu vas faire un four.
Si tu veux les voitures et les circuits le pack 90, en fait, il faudra payer le DLC, donc le contenu téléchargeable en plus.
C'est con.
Ce qui est très très con.
Moi, sincèrement, je vois pas un fan de Formule 1 qui ira acheter le jeu sans les classiques.
Des casual gamers, il y a beaucoup de gens, je pense, qui jouent aux jeux de F1 sans regarder la F1.
Oui, mais
parce que c'est un jeu de course et que finalement, bah, une fois que tu sors des Forza ou des Gran Turismo qui sont peut-être un peu trop pointus,
Gran Turismo pointu, oui, si.
Non, mais enfin, sur PlayStation, c'est quand même la référence. Enfin, on peut pas dire le contraire non plus. Une fois que tu sors de Gran Turismo ou de Forza ou d'un simulateur sur PC, ben, c'est peut-être le jeu où tu peux prendre le plus ton pied avec des voitures qui vont vite, quoi.
Ouais.
Je crois que ce passage de l'émission équivaut à un ta gueule pour Jennifer.
Comment?
Je crois que ce passage de l'émission équivaut à un ta gueule pour toi.
J'essaie de comprendre ce que vous, de quoi vous parlez, en fait.
C'est le moment où Jennifer, c'était 5 minutes, mais on lui a rien dit, en fait.
Ah, dès que ça parle pas, chaussures, hein, vêtements, soldes, hein, ça, hein.
Moi, ce qui m'a étonné, quand même, dans l'annonce, c'est qu'au niveau des voitures, il y aura la Williams de la FW12, je crois.
11, je sais plus.
La Lotus T100, une Ferrari des années 80, je sais plus laquelle. Dans les années 90, il y aura celle de 92, pardon,
oui, avec Mansell. Oui, oui.
Celle de Démonil de 96. Et alors, c'est là que c'est le plus étonnant, c'est celle de 99, la Ferrari d'Eddie Irvine.
Ils avaient peut-être pas les droits pour Schumacher. C'est comme Jacques Villeneuve à l'époque où ils avaient pas le droit d'écrire son nom, ils étaient obligés de mettre John Newhouse.
Oui, mais même, pourquoi celle de 99?
Ouais, première voiture championne du monde des constructeurs en Ferrari depuis...
C'est vrai, constructeur.
Au moins 10 ans.
Mais peut-être qu'il n'y a pas eu de Formula One en 99 et donc ils n'ont pas eu à acheter de licence supplémentaire pour...
Si, il y a eu c'était un Formula One, c'est le premier jeu que j'ai eu sur PlayStation 1.
Bon, bah d'accord.
Donc si, ça existait, c'était Sony qui faisait ça à l'époque. Yopsinogis ou je sais plus quoi.
Oui.
Avec l'œil, beau.
Jennifer, tu reviens quand
mais
tu
bon,
veux.
Voilà.
De quoi? Bon.
C'est toi qui as les rênes de l'émission, si tu veux passer à autre chose, n'hésite pas.
En fait, c'est moi qui ai pris le ta gueule, en fait, je crois. Je me le suis attribué toute seule, là, en fait. Non, on va voir sur une autre actu dont on se fout. Bah voilà, on a parlé de jeux vidéo, donc on va parler des petits points, on va faire le point sur les rumeurs, les petits potins, vu que... On parle de quoi? On parle de Raikkonen, Massa, donc tout ce qui est au niveau des transferts. Donc Raikkonen, Massa, Hülkenberg, Bianchi.
Bah tout ça c'est un peu lié quoi. Enfin.
Oui bah oui, l'avenir des uns et des autres. Parce que Hülkenberg, on le cite aussi bien chez Ferrari que chez Lotus.
Chez Lotus, ouais.
Donc pour ça, il faudrait d'abord que Raikkonen et Massa dégagent. Je pense que Raikkonen a peut-être plus de chances de ne plus être chez Lotus l'année prochaine que Massa de ne plus être chez Ferrari. Mais voilà, un nouveau Bianchi, je pense que pourquoi pas l'imaginer. Enfin, Sauber, c'est peut-être compliqué, mais on avait évoqué que Nicolas Todd pourrait être un des repreneurs possibles. Dans ce cas-là, il aurait pu avoir une promotion, mais là, Bianchi, enfin, est-ce que Ferrari...
C'est des rumeurs qui sortaient d'un peu n'importe où. Hein.
Oui, bah oui, enfin, c'est des rumeurs avant. Il
n'y avait pas eu que Nicolas Todd qui avait été cité.
Oui, de toute façon, il y avait celui qui est déjà
avec
Chelsea. Abramovich. Ah, je pense que de toute façon, l'avenir des uns et des autres sont forcément liés d'office.
Donc finalement, c'est Vladimir Poutine qui a payé, quoi.
C'est ça. Donc c'est Vladimir Poutine qui conduira. Il a déjà roulé d'ailleurs dans une Formule 1. C'était une Renault de quelle année maintenant?
Ouais, c'est à l'époque de la signature du circuit, enfin du contrat pour Sochi. Où il avait signé le Grand Prix, le contrat, il avait fait un tour de Formule 1 juste derrière.
Mais en parlant de Poutine, vous en avez parlé du statut un peu de cocu de Maroussia par rapport à l'argent russe là? Parce que la Russie a quand même de l'argent à mettre en Formule 1, visiblement, parce que si j'ai bien compris, c'est des fonds publics, hein, de...
Sauber, c'est Ski, ouais.
Ouais.
Ski, bah, il s'avérait que
les trois sociétés qui sont partenaires, en fait, ce seraient des sociétés plus ou moins fantômes et qui seraient en réalité le gouvernement russe, enfin l'État russe.
Oui. Donc on pourrait limite s'apparenter ça à des organismes publics, quoi, de russes, quoi, oui. En fait. Donc... je trouve ça très bizarre
ça faisait comme le Venezuela avec Maldonado.
Oui, et PDVSA.
Mais ça, c'est pas comme s'ils n'avaient pas déjà une écurie russe qui court depuis 2 à 3 saisons et qui essaie désespérément de vivre avec son image russe de la...
Et qu'apparemment tout le monde est contre elle, quoi, parce que le Bernie leur fait un coup de pute en leur signant pas un contrat parce qu'ils sont 11e. La Russie leur donne pas de l'aide pas, parce qu'au final le pire, en fait, c'est que dans Maroussia il y a Roussia, quoi. Enfin, c'est, je pense que ça vient de là, hein.
Bah, Maroussia c'est un constructeur automobile et le constructeur automobile prend son nom de la Russie, donc
oui, c'est d'où le fait que, enfin, je trouve ça hallucinant, quoi, de voir que Maroussia se prend autant de bâtons dans les roues, en fait.
Mais après, faut voir aussi si le patron Maroussia n'est pas un opposant politique.
Ah, de c'est
Poutine.
Pas faux.
Il y a peut-être aussi cette possibilité-là d'avoir un opposant et.
Ben, il est vivant, donc c'est bon. Il n'est pas opposant.
Il est vivant.
Et est-ce qu'ils construisent leurs voitures en Russie? Je ne suis même pas sûr.
Est-ce qu'ils construisent leurs voitures déjà? Parce que le premier constructeur automobile qui a acheté une écurie de Formule 1 avant même d'avoir produit une seule voiture.
Et tu sais qu'il y a un des modèles qui est déjà en fin de production, ils le produisent déjà plus.
Oui.
J'ai regardé ça il y a quelques jours. Ça fait que trois ans qu'ils produisent des voitures et il y a déjà un modèle qui ne sert plus à rien.
Non, mais sinon sur les rumeurs, de toute façon, on va savoir ça dans les prochaines semaines, prochains mois.
Ça va dépendre de Ricciardos cette semaine. Moi, je vous le dis.
Ouais, de toute façon.
Ça va dépendre de Kimi.
Ricciardos, il fait un temps.
Je suis. Enfin, ou ça va bouger très vite.
Non, ou alors il va se mettre à manger des magnums. Regardez, moi aussi, je peux faire le gars cool.
À mon avis. Hein.
Alors, tu sais, j'ai quand même appris que le coup des magnums en Malaisie l'année dernière, c'est tout le monde dit c'est un coup, un clin d'œil et compagnie, mais en fait non, c'est juste qu'il y a, je crois que c'est la marque de glace qui avait été offerte appartient au groupe Unilever, qui est un sponsor de Lotus. Donc en fait, c'était juste un gros coup de com.
Bah finalement, ça n'a pas marché puisqu'on apprend que maintenant que c'est la marque qui est
derrière. Oui, mais tout le monde a dit. Vous savez, c'est le coup où ils ont offert des magnums.
Mais c'est qui? C'est Antoine Arlo qui nous l'a dit en plus, oui. Me semble.
Il est bon, c'est Antoine Arlo.
Il est trop fort.
Ah, moi je préfère, sincèrement, Margot Lafitte. Et Julien Febron. Je voudrais pas faire mon excuse, mais Margot Lafitte et Julien Febron.
C'est circonstancié.
Elle a tout de suite plus de charme, il faut l'avouer.
Oui.
Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des actus.
Oh, tu...
Enfin, et des actus de fonction.
Tu veux pas nous parler de l'actu de Fab?
Ah,
voilà, dossier.
Ah, l'actu de Fab.
Ouais.
C'est l'actu dont je n'avais absolument pas rien compris. C'est les blagues de Fab. En fait, il faudrait qu'il me fasse une petite note à chaque fois qu'il essaye de faire une blague.
Du genre, on a parlé de la Thaïlande, mais je sais plus pourquoi, mais tout le monde s'en fout.
Non. C'est pire.
Je sais pas quoi dire, quoi.
Attends, j'ai fait Fab quatrième langue, envoie.
C'est... Bah, donne l'intitulé, simplement.
L'intitulé est la réponse D.
Surtout que c'est con parce que c'est la cinquième actu, donc ça devrait être la réponse E.
Ah oui.
Voyons Fab.
Ce qui est con.
Allô.
Retourne jouer au tennis, Fab, hein.
Sur une jambe.
Il s'entraîne pour les Jeux Paralympiques.
Ah, il a fait chance.
On voit ensemble maintenant donc le sondage qu'il y avait eu dans le précédent mag.
Ah oui.
Oui.
Donc je rappelle la question. Le sondage qui avait été donné lors du précédent mag, c'était: quelles sanctions auriez-vous infligées à Mercedes, Pirelli ou à la FIA? Donc les propositions qu'on avait, vous avez voté à 2,6%, donc pour deux propositions différentes. Donc c'était regarder l'intégralité des archives de la Super League Formula. C'était quoi? C'était les voitures qui étaient avec les équipes de Formule 1, c'est ça?
Oui.
Que à côté,
ça devait être très intéressant.
Je cite Enzo. Mais oui, il va marquer.
En deuxième proposition, à 2,6%, on avait aussi prendre des cours d'anglais avec Martin Wismars.
Ça va payer, ça.
Ah, c'est dommage. C'est quand même deux belles réponses SAV.
Ouais.
C'est ça.
Mais ça, tu vois, ça, c'est, je pense, c'est deux rédacteurs qui ont voté ça. Parce qu'il y a que quand t'es rédacteur, il y a que quand tu traduis Martin Wismars que tu,
oui, c'est sûr,
comprends que c'est dur.
Oui, parce qu'il y a deux votes, alors.
Martin Wismars a inventé la langue anglaise.
Oui. Et après, quand ils ont vu ça, les Anglais, ils ont dit non, en fait, on...
Non, c'est les Américains.
Ouais, c'est en fait Martin a inventé la langue anglaise et Lewis Hamilton l'a trouvé génial.
C'est pour ça qu'il parle en plus, super, on va dire superlatif. Avec c'est ça.
C'est gentil d'expliquer.
Plus comme les Américains.
C'est très gentil.
Bon, ensuite en proposition, il y a eu trois personnes qui ont voté pour répondre aux questions d'Alexandre Delperrier. Qui a d'ailleurs disparu des écrans télé, hein, il faut le dire.
C'est pas plus mal.
Et voilà, exactement.
À deux, en même temps, quand tu fais Amazing Race, tu restes pas longtemps. Tu restes pas longtemps sur des.
Ah, ils vont revenir l'année prochaine.
Oui,
ah non, je te jure, le contrat est signé.
Avec Popstar.
Le contrat est signé. Je crois que ça a commencé à être tourné. Et donc, il y aura Amazing Race à la rentrée prochaine sur D8.
En troisième partie de soirée.
Mais non, mais je crois qu'ils vont essayer de faire un peu comme ils vont faire ça avec des vedettes. Mais c'est génial, Amazing Race. C'est juste que vous avez des goûts de merde, mais c'est génial.
Non, j'ai pas. Franchement, c'est juste pour la vanne, j'ai pas regardé.
Ah là, tu fais juste des trucs pour la vanne?
Un peu. Oh. Et ouais, je suis moi-même dans l'humour.
Ensuite, comme autre pénalité, c'est. Bon, allez, c'est concernant le film préféré de Dino, c'est devoir réaliser une suite au film Driven.
Ouais.
Préféré, c'est un bien grand mot.
Ouais.
C'est pareil, tu pratiques l'humour, Jennifer, bravo.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ensuite? On a fait un tour de circuit en biplace avec... alors lui, je ne le connais pas, d'ailleurs.
Oui.
Yuji Hide, d'accord.
C'est qui? Ah, alors, en tout cas, c'est DVD de la saison 2006.
C'est que ses bras cassés.
Moi, je dis, ça mériterait un ta gueule.
Ça mériterait presque, mais c'est parce que si on fait... Non, mais si on met ta gueule maintenant, on est bloqué dans l'émission.
C'est ça.
À 150, c'est le nombre de pilotes que ne connaît pas Jennifer.
Presque, c'est 153, mais bon, c'est pas grave.
Ensuite, vous avez une sanction, mais quelle sanction? Donc ça, c'est les sanctions de la FIA, quoi.
C'est un peu une surprise, seulement 5 votes, ouais.
Ouais.
Je pensais que ça aurait beaucoup plus.
Bah, par contre, on a 10 personnes qui ont voté quand même pour une punition de Max Mosley.
Ouais.
12,99%.
Il y a des masos dans les auditeurs.
Je ne peux pas te laisser dire ça. Je pense que c'est des gens tout simplement qui ont une vision différente et qui ont envie d'être
plus tels quels.
Voilà.
Ou qui regrettent The News of the World.
Je ne dirais pas pourquoi j'ai voté, mais je pense que c'est des gens qui méritent le respect et qui voilà. Qui...
Ben...
Ah, Max.
Mais on ne sait pas pour quelle proposition tu as voté.
Pas du tout.
Non.
J'ai voté pour la suivante.
Se faire lapider par des marbles Pirelli.
Ah oui, ça c'est ma proposition.
Ça revient au même. Hein.
J'ai voté ça. Hein.
Se faire punir par Max Mosley ou se faire jeter des marbles Pirelli, c'est...
Oui, parce qu'il a une combinaison en marbles.
Bon, après, ensuite, la deuxième proposition qui a été le plus votée, 14 votes, c'est avec passer le Grand Prix de Silverstone avec un bonnet d'âne. C'est qui l'avait proposé, cette proposition?
Je sais pas, mais c'est des opinions.
Oui, c'est... Voilà, c'est... Voilà.
Excusez-moi, mais...
Bah, il y a 14 personnes hein, qui ont trouvé ça très rigolo, je pense. Et donc, la première proposition, donc, il y a 22 personnes qui ont voté pour copier 100 fois le règlement et le code sportif international, annexe inclus.
Ce qui ne sert à rien, puisque le règlement va changer l'année prochaine, donc...
Voilà. Ouais, mais ça leur fera des pieds quand même.
Tu peux toujours le copier? Non, tu copies le 2013 et le 2014, hein, pour la forme.
Bon, du coup, ça nous pose la question, quel sondage? Est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite au sondage? À faire, ou alors est-ce qu'on fait comme Shinji? On fait un sondage partie 1, on fait autre chose, et on fait un sondage partie 2, 3 heures après.
Ce qui est magnifique dans le chapitrage, d'ailleurs.
Oui! Mais ça, c'est une innovation de Shinji. C'est Shinji, un jour, il s'est dit, tiens, on fera ça plus tard. Il a dû oublier, en fait. Et
depuis, voilà. C'est resté.
C'est devenu, c'est sa marque de fabrique. Mais là, c'est toi qui dirige, Jennifer. Donc,
là, il est pas là.
Mais il est pas là, donc, Et ben, on va le faire tout de suite, le sondage. Le sondage pour le prochain mag.
Je me rends compte qu'il était pas là, Shinji.
Pas, Dino.
Shinji, reviens.
Il revient bientôt.
On oublie vite les gens, hein.
C'est vrai.
Shiki?
Shinji. Ah, le fan de Massa?
Shinji Nakano?
Oui, fameux pilote. Non, Shinji, je ne t'oublierai jamais. C'était un 33 septembre, nous étions sur la plage. Il faisait beau, le soleil brillait.
Une plage, Rouen?
Bah oui, Rouen plage, tu ne connais pas.
Nous étions dans la Seine.
Ses yeux brillaient dans l'eau. Shinji.
Note pour le monteur, mettre la musique du feu de l'amour en fond.
Ah, attends, déjà, faut que le monteur, il apprenne à couper.
Il va en avoir, hein, du montage à faire.
Continue à l'haranguer par montage interposé, il va te couper complètement.
Bon, alors, le sondage, qu'est-ce qu'on pourrait proposer?
Ah, tout de suite, tu nous prends tout de suite comme... Ah bah non, on n'a pas le temps de réfléchir, nous, Jennifer. Tu désorganises tout.
Pourquoi? Bah, tu m'as demandé quand que c'était, tu m'as dit que c'était moi qui choisissais.
Ça va dépendre du montage. Si le montage est gentil, je t'ai demandé, sinon, c'est toi qui nous impose. Ça dépend du monteur.
Eh ben, j'impose, c'est tout.
La non, vengeance, Fab, la vengeance.
Moi, je me ferais bien une question sur quel pilote débutant feriez-vous rouler à Silverstone cette semaine?
Exactement la même chose, figure-toi.
Avec, moi, je me rappelle d'un sketch de Guignol. Enfin, voilà, c'était sur les... En plus, c'est l'actualité, ça parlait du Tour de France. Et c'était sur la montée d'Armstrong sur le Ventoux ou sur l'Alpe d'Huez. Et donc, c'était... T'avais Armstrong qui montait très vite. Et derrière, t'avais Pantano qui revenait. Parce que Pantano était...
Pantano, c'est le champion GP2 qui n'a pas eu de carrière.
Et ça finissait, t'avais... comment ça s'appelle Faustocopie qui revenait, qui était en squelette qui revenait, qui dépassait tout le monde et qui dépassait Armstrong et qui disait ah je suis...
Mais c'était Virenque, hein. Je crois que c'était
Virenque
dans le sketch.
Donc voilà.
Parce qu'il y a le fameux sketch où il se fait piquer par un moustique et le moustique devient complètement fou.
Ah, c'est les grandes années des Guignols, ça.
Ouais. Après, Bruno Gassio est parti, c'est devenu de la merde.
Et donc, quelle est ta proposition?
La Faustocopie. Tout ça pour ça, non.
Le squelette de Faustocopie.
Un pilote...
Rubens Barrichello, oh, oui. Est obligé.
Ah ouais.
Jaime Alguersuari.
Sterling Moss.
Ah, Sterling Moss, obligé.
Un jeune pilote.
Donc on a dit Sterling Moss.
Rubens Barrichello. Et Jaime Alguersuari.
Ah, sincèrement, si ça a des bonnes réponses, ça...
Je venais de suggérer Margot Laffitte.
Ah, Margot Laffitte, ça peut être sympa.
Ouais.
Ça nous laisse 6 choix encore. Bernie Ecclestone, après tout, il a été pilote.
Helmut Marko.
Bonne blague. Helmut Marko avec des bonnes, avec un bon casque, hein, un casque de, pas d'époque.
Moi je dirais Helmut Marko, l'œil bordé. Allez, il nous en reste 4.
Moi je dirais. Je dirais Petrov, qui est même pas. Qui n'est même plus aujourd'hui.
Je demande s'il a été jeune.
Voulu par les sponsors russes.
Je demande s'il a été jeune un jour.
C'est ça, ouais.
Il
pourtant,
est né vieux.
Et pourtant, il est pas
comme
vieux.
Comme Bernie. Il est né avec des cheveux blancs.
Avec une coupe de cheveux des années 60, tu sais.
Ah, avec un truc de Playmobil sur la tête.
Bon, naturellement, j'ai envie de dire Obi-Wan Kenobi.
Ouais, mais en fait.
Mais non, mais on met pas tout le temps. Alors,
ça perd, ça perd de son pouvoir, ça perd de sa force.
Chewbacca. McLean.
Non, un pilote,
Kartikeyan.
J'adore, ça vient du fond du cœur.
Oh non, on parlait plus de lui cette année, mince.
Concombre-man est de retour.
C'est ça, tu mets dans la proposition, c'est un concombre.
L'homme concombre.
Moi, j'ai envie de mettre ça à la place de, à la place de Petrov.
Oui, Petrov, c'est pas drôle.
Ouais.
Un concombre.
Mais le concombre.
Bah, je mettrais un concombre, non, Kartikeyan, en fait. Ou juste un concombre.
Ouais.
Et on laisse les gens voir s'ils ont compris la blague.
Oui, parce que rappelons-le, les gens sont cons.
Bah, hein, concombre, il y a concombre. Donc je laisse un concombre.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait un pilote informatique qui serait connu?
Ouais. Pilote informatique.
Faire une blague, un pilote.
Ouf.
Bah, la radio dans K2000.
Les pilotes de Karl Garfink.
Oui, voilà, bah voilà. Un pilote de Karl Garfink, ça peut être sympa. Attiradion.
Attention, cette proposition va faire un four, je vous le prédis.
Il y a Kit de K2000.
Ah, mais c'est pas un pilote.
Michael Knight.
Oh, il pilotait pas. Il ouvrait la porte, il levait les phares, c'est bon.
C'est pareil, Michael Knight, on sait pas si c'est vraiment lui qui pilotait. C'est toujours, tu vois, c'est la part entre l'homme et la machine.
Bon, alors c'est pas lui, c'est pas la voiture, c'est qui?
C'est un peu des deux.
En fait, il y avait un tracteur qui tirait la voiture devant, on le voyait jamais.
C'est surtout qu'en fait, je sais pas écrire Kit. C'est comme Kit, Kit?
K-I-T, c'est Knight Industries 2000.
C'est K-I-T.
Ouais, c'est K-I-T-T.
K-I-T-T.
Alors moi, je propose K-I-T-T. Michael Knight, ou les deux?
Ou les deux.
Knight, c'est Knight comme la nuit ou Knight comme le chevalier?
Le chevalier.
Le chevalier, ouais.
L'appelle le chevalier blanc, il va... Enfin, bref.
Il en manque deux. Ouais.
Il manque encore deux. Ouais, j'ai dit John McClane, mais c'est pas drôle. Je pense qu'on l'a déjà fait aussi, celle-là.
Non, je crois pas. Non.
Ah, il y a...
Pas John McClane, alors. Je pense à Chuck Norris, mais je me dis, on l'a déjà
dit. John McClane, c'est beaucoup moins... C'est connu, mais c'est pas non plus... C'est pas Chuck Norris ou...
Moi, j'ai envie de dire Tom Cruise alias Maverick. Parce qu'en pilote...
Oh oui, Maverick. Oui. Ah, moi, je le veux bien, Maverick.
Non, mais dans le sondage, j'ai dû faire.
Ah, d'accord.
Non, il y avait une Diesel aussi.
Ah, je veux encore plus qu'une Diesel, alors.
Pas de Diesel en Formule 1, s'il vous plaît.
Et donc, il nous en reste un.
Romain Grosjean, un bon rookie.
Michel Vaillant. Michel Vaillant, ça sera drôle.
Oui.
Ouais.
J'ai pensé à Michel Vaillant, mais...
Steve Warson, alors. On se fout de sa gueule parce qu'il est plus mauvais que Michel
alors,
Vaillant.
Alors, tu vois, ça, pour le coup, moi, j'ai bien envie de mettre, juste pour voir, Steve Warson et Michel Vaillant dans deux propositions différentes. Sachant que c'est Michel Vaillant qui va gagner, parce que je pense que les gens connaissent pas Steve Warson.
Bah oui.
Ou alors, on met Michel Vaillant, Steve Warson ou les deux.
Non, le capitaine du SAV, de, mais pas de la F1, le SAV des émissions. Hello ladies and gentlemen, this is the captain speaking.
Ah oui, ah, c'est Fred, c'est ça?
Fred, oui.
Parce qu'à la limite, autant mettre Fred, c'est comment il s'appelle?
Fred Testo.
Fred Testo.
Alias the captain. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Je m'auto-censure sur celle-là.
Le pilote...
Bah, Giorgio Pantano.
Robert Kubica.
Ah non, putain, c'est vrai.
Il pourrait. Hein.
Ah, on a mis Helmut Marko, l'œil bordé. Moi, j'ai envie de dire Robert Kubica, la main attachée.
Non, la main dans le dos.
La main dans le dos.
On part sur Robert Kubica.
Oui.
Ouais, ouais, la main dans le dos, ouais.
Alors, le sondage pour la prochaine émission qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, dépêchez-vous parce qu'il y a très peu de temps pour voter. Et le suivant. Quel jeune pilote feriez-vous rouler lors des Rookie Days de Silverstone? Et voici les 10 propositions. Bernie Ecclestone, Helmut Marko, l'œil bandé, Rémy Alguersuari, Kit, Michael Knight ou les deux, Margot Laffitte, Robert Kubica, la main dans le dos, Rubens Barrichello, Sterling Moss, Tom Cruise alias Maverick, un concombre. Voilà, pour voter, c'est sur fan-f1.com.
Et si vous ne comprenez pas les références,
mais vous écoutez l'émission avant. C'est peut-être le meilleur moyen, d'ailleurs.
Ouais, mais c'est pas dit qu'on les explique toutes. À aucun moment on a dit qu'à 2000, je crois.
Maintenant, tu viens de le dire.
Bah voilà, c'est fait.
Bah non, c'est entre les mains du monteur.
Démerde-toi, Fab. Voilà.
Bon, bah on va passer aux citations.
Ah ouais, les citations.
Ah merde.
Oui, les citations. Vous avez préparé les citations,
obligé.
Forcément.
Oui.
Bah oui, obligé. Obligé. Bon, moi j'en ai déjà une.
Vas-y, honorodame.
Honorodame. J'ai fait mon travail consciencieusement. Alors, d'ailleurs, merci Ben. J'ai repris en fait tout simplement. Ah, pourtant, habituellement, je supporte pas trop ce qu'il dit.
Je supporte pas ce qu'il écrit, Ben. Mais là, j'ai lu son article.
Non, Ben. Mais non, je reprends une citation, une phrase qu'a dit Jacques Villeneuve dans l'interview qu'a faite Ben lors du Grand Prix d'Allemagne. Et d'habitude, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit dans ses commentaires lors des commentaires de Grand Prix. Mais là, il parlait tout simplement de l'évolution de la Formule 1. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure. Il disait tout simplement que l'évolution de la Formule 1, c'est devenu de moins en moins un milieu de sport et de plus en plus un milieu de business et de politique. Et je voulais tout simplement prendre cette citation parce que j'étais totalement d'accord avec lui. T'en as parlé Dino tout à l'heure en disant que justement les sponsors russes de Sauber, c'était certainement également des fonds, on va dire, un petit peu déviés qui provenaient de la Russie directement. Donc... c'est vraiment, on est vraiment là-dedans,
de Cahuzac,
en fait.
Quoi.
De quoi?
C'est le pognon de Cahuzac, quoi. On est transité par la Suisse, par Singapour, c'est revenu en Russie en passant par,
non,
par les Maldives.
C'est pas Cahuzac qui peut renflouer Sauber, c'est le fils Fabius.
Oui.
Donc voilà, c'était simplement une citation de Jacques Villeneuve parce que j'étais d'accord avec lui pour une fois.
Si je peux préciser, tu as dit, tu parlais de l'interview, tu aurais dû dire la magnifique interview.
Mais la superbe interview de Ben.
Bah moi j'ai une citation d'une autre exceptionnelle interview de Ben. Hein.
Oh là ça là, va, il est trop fort Ben.
Ça va là, oui bon. Hein. c'est l'interview de Stéphane Sanson, excellente hein, franchement. C'était pas toi en fait, non. C'était Mathieu.
C'est Mathieu.
Donc l'excellente interview de Mathieu. Comment dire. De Stéphane Sanson qui est le directeur de la communication de Lotus, hein, c'est ça.
Ouais.
Qui dit quand on a un problème de pompe à essence, on ne va pas dire que c'est comme une autre écurie grise qu'on a eu un problème technique, on dit que c'est un problème de pompe à essence. Je trouvais que c'était un superbe tacle à McLaren, à la communication très feutrée qui entoure McLaren. C'est juste pour souligner déjà l'état d'esprit de Lotus dans sa communication par rapport à beaucoup d'autres écuries et l'interview donc qui était d'excellente facture. Comme tout le week-end de Mathieu à Silverstone ou en Allemagne, je sais plus.
C'est Silverstone.
Enfin bon.
C'est Silverstone qui était. L'Allemagne, c'est moi.
Ben, sinon t'as une citation toi.
Oui, bien sûr. Une citation blamble et belle.
Je te fais le vroom là, tu vas parler.
Non, je voulais reprendre la citation d'Albert Dick qui annonce qu'il abdique. Non, non, c'est une citation de Jenson Button.
Qui est très belle.
Ah, attends, tu vas voir. Il déclare « Je suis les résultats de Stoffel, et nous savons tous qu'il a une sacrée pointe de vitesse, mais je pense qu'il a aussi la manière dont il se conduit. C'est un pilote plein de confiance, qui comprend parfaitement ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend d'un pilote au top niveau, et j'ai l'impression que nous le verrons en Formule 1 dans le futur. » Voilà, il faut savoir que Stoffel Van Dorn a rejoint la société de management de Jenson Button, ce qui explique les propos élogieux du pilote. Voilà, juste pour parler... Exceptionnel week-end russe de Stoffel Van Dorn, qui est le premier pilote de la catégorie de Formule 3.5 à faire la pole, à remporter des deux victoires, à signer deux poles et à signer deux fois le meilleur temps le plus rapide en course.
Deux hat-tricks, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça. Et qui reprend la tête du championnat pour trois petits points sur Magnussen.
Il fait partie du programme de développement des jeunes pilotes de McLaren ou pas?
Mais c'est un duel, ouais. McLaren, en fait.
D'accord. Lui et Magnussen en font partie, ouais. Ouais. Puis cette saison, lui en fait partie. Magnussen, c'est la deuxième année,
ouais, je pense. Crois, ouais, Magnussen.
Donc voilà. Au duel entre les deux pilotes en perspective, il reste 4 meetings. Donc 8 courses.
Le prochain, ce week-end, en Autriche, c'est ça?
Et puis après, ils vont Paul Ricard. En septembre, je pense.
C'est fin septembre.
Alors, Paul Ricard, moi,
en septembre, mi-octobre.
C'est une idée. Hein. C'est inspiré de chez nos amis de chez Mercedes. Je suggère que Paul Ricard, Renault fasse une démonstration avec le fils Prost dans une Lotus et le père Prost dans une autre voiture de la marque Renault. Vous voyez, juste comme ça pour faire original. Je suis sûr que ça n'a jamais été fait. C'est un conseil. C'est pour vraiment s'inspirer de Mercedes. Voilà. Bon, ce Mercedes,
J'ai mis 10 ans à radier les deux bouts.
Juste ah, tu toutes les émissions, hein.
J'écoute toutes les émissions.
Ah, bon bah c'est bien, alors.
C'est juste que j'oublie souvent ce qui se passe.
Et moi, ce serait une citation de Pat Symonds, qui, figurez-vous, avant de partir de chez Marussia, était très bavard. Il a beaucoup parlé cette semaine. Et notamment quand on lui a demandé si Marussia serait mieux placé avec Alonso ou Vettel au volant de la MR02, il a déclaré la chose suivante. Chez Renault, notre sentiment était que Fernando valait une demi-seconde de plus qu'un pilote normal. Comparé à nos pilotes, c'est peut-être un peu plus que ça, tout simplement parce qu'il manque d'expérience. Mais nous avons les mains liées, nous devons avoir des pilotes qui apportent également de l'argent. Donc il y a trois informations intéressantes dans cette citation. La première, c'est qu'effectivement, c'est l'aveu que, oui, les pilotes payants sont utiles en Formule 1 et ça ne dénote pas non plus leur talent. La deuxième, c'est que Alonso est un pilote jugé comme étant beaucoup plus rapide, voilà, au-dessus de la normale. Bon, c'est une information qui vaut ce qui vaut, mais voilà. La troisième, c'est que Alonso est plus rapide que les pilotes titulaires, et c'est malheureusement celle qu'on a retenue sur pas mal de sites. C'est, on a un peu résumé la déclaration de Pat Symonds en disant Alonso est plus rapide que serait mieux que nos pilotes titulaires. Voilà, on se résume à ça dans un titre, en oubliant le fait que lui-même reconnaît que, bah oui, mais il y a aussi une question d'expérience et qu'on peut pas demander à ni à Hamilton ni à Bianchi de compenser l'expérience d'Alonso et ne serait-ce même que le talent. Voilà, donc les conditions et les choses sont pas pareilles et lui l'explique bien dans sa déclaration, Pat Symonds, mais certains journalistes, encore une fois, reprennent, font un titre et sortent un peu la déclaration du contexte et si on se fie, moi au début je me suis dit je vais prendre cette citation juste pour pousser un coup de gueule contre Pat Symonds et en fait en lisant l'article je me suis dit bah non mais en fait, c'est pas contre Pat Symonds, faut pousser un coup de gueule. C'est contre le journaliste qui a repris cette citation.
C'est souvent comme ça, hein, oui. Bizarrement.
Et là encore, on peut même pas dire que c'est la traduction, là, c'est un site anglais. Et le pire, c'est que dans l'article, ils te mettent la déclaration.
Ils ont mal traduit l'accent.
Dans l'article, ils mettent la déclaration complète. Et on te retient juste, Alonso ferait mieux que nos pilotes titulaires. Bah oui, mais en même temps, c'est normal. C'est l'évidence même.
Ouais, quand on sait qu'il est le plus rapide de deux secondes à deux secondes et demie que tous les autres, c'est normal.
Ah là, en fait, Massa, c'est un génie. C'est juste qu'il est tombé sur Alonso. C'est pas de bol.
Il est tombé sur un ressort aussi.
Oh. Techniquement, c'est le ressort qui est tombé sur Massa.
C'est vrai, c'est vrai.
Permets-moi de modifier.
Bon, bah, je crois qu'on a des questions dans le répondeur du SAV.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
On a, je crois, une question. Bah, une question d'Adelin.
Oh, ah!
Qui est cet Adelin?
On ne le connaît pas, ça doit être un nouvel auditeur.
Oui, c'est du... Qui es-tu?
C'est sympa d'avoir des petits nouveaux.
C'est ça, c'est un petit nouveau, c'est Adelin.
Mais présentez-vous! Donc on écoute sa question.
Salut à tous. Ma question porte sur le double DRS. J'ai lu qu'au Romain Grosjean l'a testé en Allemagne. Mais ce système n'a-t-il pas été interdit fin 2012? Sinon, pourquoi ne prennent-ils pas celui de l'année passée? Et les autres écuries comme Red Bull qui en possédaient un, que font-elles? Bonnes vacances et à bientôt.
Ah bah t'arrives au bon moment, Gus Gus, tiens.
Oui, surtout que je l'ai préparé.
Ah bah c'est nickel. C'est là qu'on peut dire ta gueule, par exemple.
Ah bah, c'est... démerdez-vous, je veux dire.
Ah non. Bah, on n'est pas comme ça. Vas-y, Gus Gus.
Oui, Adelin, en fait, le problème tient au fait de l'appellation double DRS en elle-même, parce que le règlement, évidemment, ne fait pas mention de système sous ce nom-là, puisque ce serait sujet à interprétation. Qu'est-ce qui est un double DRS, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et donc, ce qui s'est passé entre 2012 et 2013, c'est qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été interdites. Deux, pour être exact. D'un côté, l'interdiction pour le DRS d'influer sur la géométrie de la voiture, c'est-à-dire que on ne peut pas boucher ou déboucher un conduit via le mouvement du DRS. C'était le principe du double DRS de Mercedes l'année dernière. Attention, je dis bien du double DRS de Mercedes. Parce que d'un autre côté, il y a eu ce qu'on a appelé le double DRS chez Lotus, qui est toujours sur la voiture aujourd'hui, qui ne mérite pas forcément l'appellation double DRS, c'est plus parce que c'est un système passif et qu'il n'y a absolument aucun rapport avec le DRS en lui-même. C'est juste l'effet, la conséquence qui est la même, l'augmentation de la vitesse de pointe en ligne droite, alors que les causes sont différentes. Et donc par rapport à ça, le système de Lotus n'a pas été interdit parce que c'est un système qui est complètement passif par rapport au système qu'utilisait Mercedes, qui était lui, on va dire, semi-actif voire actif, quoi. Il utilisait un mouvement, le mouvement du DRS pour fonctionner. Là, c'est des systèmes complètement passifs, donc c'est des systèmes qui sont restés autorisés. D'ailleurs, Mercedes avait testé l'année dernière pendant les essais jeunes pilotes, je crois, un système plutôt équivalent à celui de Lotus.
Red Bull et McLaren aussi l'ont testé, je crois.
Red Bull, je sais plus. Je sais pas.
Non, exactement. C'est Red Bull, on n'a pas vu ça chez Red Bull.
Red Bull, eux, ils avaient un vrai double DRS de type Mercedes. Ils avaient l'ouverture quand le DRS était enclenché.
Je pense que des écuries comme Sauber ou même Red Bull ont essayé ça pendant les essais hivernaux.
Il me semble que Sauber, ouais, je crois, il me semble que Sauber. Après,
je crois que Red Bull a fait pareil, mais on l'a pas. Je pense pas qu'on l'ait vu en course, par contre.
Non.
Et c'est là où on arrive aussi à l'incohérence, à une certaine forme d'incohérence de la part de la FIA, qui interdit un système qui est activé par le pilote, sans interdire un système qui a le même effet, parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est très difficile aussi à interdire, mais qui n'est plus activé par le pilote, mais donc du coup, qui peut surprendre le pilote. C'est-à-dire que c'est un peu le problème du DDRS de Lotus, et je crois que c'est Kimi Räikkönen en avait parlé, c'est que tu peux être surpris par l'activation de ce dispositif, donc du coup, ça a une influence sur ton pilotage, et ça peut potentiellement être dangereux.
Ouais, mais il y a des moyens de savoir à quel moment il va se déclencher. Enfin, il faut pour ça que le pilote il regarde sur son volant à quelle vitesse il roule, en fait.
Ouais.
Parce qu'on sait que ça s'active plus ou moins brutalement à partir d'une certaine vitesse, alors que sur laquelle qui dépend du circuit, parce qu'il faut le régler ce système. Il faut qu'il se déclenche à une vitesse supérieure à la vitesse de passage du virage le plus rapide, quoi, si tu veux. Sinon, ouais, tu vas perdre de l'appui quand tu seras dans ce virage et tu vas perdre l'avantage que te donne le système. Qui fait que, par exemple, sur des circuits comme Monza, où le virage le plus rapide, ça doit être la parabolique, ce sera beaucoup plus... l'effet sera bien meilleur que sur des circuits comme avec des gros virages comme Spa, quoi, par exemple. Spa, tu dois te permettre de passer le raidillon à fond à 300 et 310. Tu peux pas te permettre de perdre de l'appui dans le raidillon avec l'activation du double DRS. Ouais. Enfin, entre guillemets, double DRS. Parce que voilà, c'est ça le gros problème, c'est que les gens qui ont, donc sûrement des journalistes au final, qui ont donné l'appellation de double DRS au système de Lotus, alors que Lotus eux-mêmes l'appelait device, hein, donc l'appareil, le dispositif.
C'est-à-dire pour ça qu'on l'appelle le DDRS.
Bah, DDRS, c'est double DRS.
Ben en fait, non, en fait, on parlait du double DRS et on a parlé du DDRS pour parler du device lié au DRS.
Je crois pas, non, c'est juste l'abréviation hein, des DDRS. Je crois pas que c'était employé spécifique.
Moi, j'ai pas souvenir que pour le double DRS, on ait parlé de DDRS.
Enfin bon, de toute façon, même d'un côté ou de l'autre, c'est pas des Enfin voilà, c'est ça qui a fait la confusion dans l'esprit des gens et donc d'Adelin, quoi. Même si tu l'appelles DDRS, de toute façon, c'est pas...
Non, de toute façon, c'est une question d'appellation.
Ça veut absolument rien dire. Et ça n'a aucun rapport avec le système.
Mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est ce que t'as bien expliqué au début, c'est que sur la fin t'étais pas terrible, mais sur le début t'étais bien.
C'est gentil.
Non mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que il y a le résumé de voilà, on bannit le DRS. En fait, on bannit le principe du DRS. Et donc dans la législation, c'est beaucoup plus concret que simplement de dire on interdit le double DRS.
Oui, parce non. que à aucun moment, quasiment, hein, je crois qu'il y a une ou deux fois, à aucun moment, il est écrit aileron dans le règlement. C'est juste, t'as le droit de mettre la carrosserie à tel endroit, à telle mesure, perpendiculairement à tel axe, etc., etc. On évite le plus possible, quand on rédige un règlement, d'employer des termes qui prêtent à interprétation, quoi. Plus on est précis, plus on a des termes concrets, genre des distances et des positions, dans l'espace. Et moins on se sera sujet à une interprétation. Il y a toujours une part d'interprétation, hein, on le voit régulièrement, mais on essaye d'éviter d'employer des termes, ou alors on les définit très clairement, quoi. D'ailleurs, l'article 1 du règlement technique, c'est les définitions, ce qu'est une voiture, ce qu'est une automobile, etc., etc., jusqu'à ce que tu arrives à ce qu'est une voiture Formule 1, ce qu'est la carrosserie, ce que sont les suspensions, les freins, etc., etc., pour que justement ce soit le plus précis possible et qu'il y ait le moins d'interprétations et de dérives possibles.
C'est un peu comme l'interdiction des échappements soufflés. On n'a pas interdit les échappements
exactement
soufflés.
Ça,
on a essayé de limiter les effets en écrivant des articles du règlement qui permettent effectivement de circonvenir aux effets des échappements soufflés.
Ouais, ça a super bien marché d'ailleurs.
Alors, il y a un nouveau truc là maintenant. C'est j'ai cru comprendre aussi qu'on parlait de l'utilisation d'un matériau qui neutraliserait un peu l'effet des échappements, un espèce de matériau réfrigérant. Il limiterait les effets des échappements. Bon, après, j'ai lu ça en traviole.
Alors ça, c'est ça n'a rien à voir. C'est pour protéger la fibre de carbone par rapport à la température et pas qu'elle fonde ou qu'elle se détériore.
D'accord.
C'est un revêtement protecteur pour la fibre de carbone. Le Zircotec, je crois que ça s'appelle. C'est une marque, hein.
Moi, c'est une boîte. À côté de chez moi, le Zircotec.
Oui, d'accord. Oui.
C'est bien chez eux, on va prendre un coup, le Zircotec. Et donc, Jennifer, est-ce que nous avons une deuxième question?
On a une question de... Ça va être Jean-Baptiste, JB.
JB.
Ouais. JB. Ou de Chelsea Button.
C'est peut-être juste James Bond qui nous écoute, là, tu vois, je veux dire.
Ah ouais, ce serait la classe, là, quand même.
Ou alors c'est Jason Button.
Voilà, Jason Button ou Jules Bianchi aussi, c'est...
Messieurs, bonjour. C'est JB de Haute-Savoie. Alors tout d'abord, félicitations pour votre émission. Voilà, je me demandais si c'était possible éventuellement que vous abordiez, pourquoi pas, le sujet de l'après Bernie, 82 ans quand même le pépère, donc il va bien finir par lâcher son trône, comment ça va se passer, voilà, merci et continuez comme ça.
Alors il faut qu'on t'avoue, hein, JB, c'est que ta question nous
intéresse.
C'est on l'a écouté et là tout d'un coup il y a eu un vide sidéral. D'ailleurs on a dû couper un passage de l'émission complet. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches qu'on a commencé à enregistrer donc lundi soir et que on a fini l'émission mardi soir juste grâce à ta question puisque il y a eu un blanc d'à peu près 24 heures. Donc on va quand même essayer d'apporter une réponse à cette question. Tout simplement après Bernie. Le néant, ce sera la fin du monde. Ce sera la fin de la Formule 1.
Une supernova. Hein.
Après Bernie, les caméras pourront retourner dans les stands.
Oh, oui. C'est pas sûr. Imagine, il est remplacé par le Bernie 2.0.
Bernie bionique. Mais c'est ça, en fait. C'est, ça se trouve, Bernie va se
régénérer.
Ouais. Il va peut-être dû s'y prendre plus tôt, parce que là, s'il se régénère aujourd'hui... Je suis pas sûr que tu veux revenir dans 1000 ans avec ce corps. C'est terrible, mais...
C'est de sa fille, Tamara, avec ses talons, ses petites robes courtes, qui va reprendre la suite.
Ah ouais. Tamara.
Ah,
ouais.
J'en étais sûr que vous allez tous vendu. D'accord.
Tamara avec le saut que nous recevrons à la rentrée.
Vous avez le choix d'ailleurs, je crois, parce qu'il en a une blonde et une brune.
On partage les mecs.
La brune est pas mal d'ailleurs. La brune est franchement pas mal.
Elle est franchement pas mal, mais elle est franchement refaite dans tous les sens.
Mais c'est pas grave.
Il faut dire ce qui est.
Je suis allergique au plastique.
Ah là, je pense qu'elle est entièrement en plastique. Je crois qu'elle bat Barbie.
Et Zaya, ouais. Elle bat Zaya ou pas?
Ah oui, elle a deux côtes en plus.
En fait, Tamara, elle est. C'est Tamara Eccleston, elle est.
Là, je l'étalerai bien sur un mini.
C'est du tarama.
Ah, pardon. En plus.
Oui, mais il l'étalerait quand même.
Un blini de 2 mètres de rayon.
Mais oui, c'est comme c'est un petit peu. Non, elle est plus jolie que Zaya, hein, quand même. Oui, quand même.
Ne comparons pas. Et...
C'est mieux fait, on va dire.
C'est plus réaliste. Fait,
oui, c'est ne comparons pas les porte-manteaux et les cintres. Voilà. Porte-manteaux, c'est. Voilà, il y a un cintre, c'est en fer. C'est, voilà, alors, voyons.
Donc, pour leur répondre à la question de JB, avec un peu de chance pour vous, messieurs, ça sera peut-être Tamara. Enfin, bref.
Ça y est, tu l'as perdu.
Tu m'as mis doute maintenant, Gus.
Peu importe.
Enfin, bon, celle qu'on étalera, hein.
Non, mais après, ça, il faut voir que il y a le projet, donc, d'entrée en bourse, qu'il y a une organisation de la F1 qui s'est structurée, donc, après Bernie Ecclestone, ça va quand même fonctionner. Il faut quand même voir Bernie Ecclestone comme, c'est limite un archaïsme, Bernie, aujourd'hui. C'est-à-dire que la Formule 1, même, sans Bernie pourrait quand même fonctionner, c'est juste le
décideur final en fait. Il
voilà, le décideur final, c'est un peu l'équivalent de Niki Lauda chez Mercedes. Voilà, c'est-à-dire que sans lui, Mercedes fonctionne. Voilà, il est président non exécutif, on va dire. Mais il est extrêmement puissant, mais il y a eu plusieurs noms qui ont circulé ces dernières années. Je crois que j'ai fait vite fait une recherche hier. Je crois qu'il y a eu ces 3-4 dernières années 3 personnes différentes qui ont circulé. Et généralement, elles ont toutes plus ou moins été prises dans des affaires ou dans des polémiques. Donc du coup, voilà, c'est quasiment tous les 6 mois, on nous parle d'un successeur. On a parlé bien évidemment de Briator. Il y a des noms comme ça qui circulent régulièrement. Voilà, clairement, le jour où Bernie disparaît, la Formule 1 existera quand même, le fonctionnement existera quand même. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'une, et c'est un peu le défaut des potentiels successeurs qu'il y a eu, c'est que il y en a très peu qu'on connaissait et qui nous semblaient suffisamment charismatiques pour succéder à Bernie Ecclestone. Et le plus crédible, ça reste quand même aujourd'hui Briator, qui a ce petit côté, ce petit charme à la Bernie Ecclestone, quoi, ce côté un peu polémique qui peut vraiment faire vivre le championnat à lui tout seul, quoi. Donc voilà. Mais on aura peut-être bientôt la réponse.
Ça viendra d'Allemagne.
Il y était d'ailleurs en Allemagne, Bernie.
Elle a pas eu peur de se faire choper.
Ah non, il est venu.
Imagine le panier à salade qui l'attend à la sortie du Nürburgring.
Bon, il arrive en hélicoptère, donc le panier à salade. Vous avez votre passe? Ah, dommage, vous pouvez pas rentrer. Ou alors faut payer. Mais vous avez accès comme il y aurait des stands, pas à la pit lane.
Vous êtes abonné au paddock club? Une accréditation journaliste. Ah, il n'y a plus de journaliste dans la pit lane. Oh.
Mais c'est vrai que ça fait un peu, si on veut faire une comparaison, ça fait un peu comme Steve Jobs. Tout le monde se demandait, après Steve Jobs, que va devenir Apple. Et derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, chez Apple, une structure, voilà, un fonctionnement. Mais il n'y a toujours pas le leader charismatique, ce qui fait que, bon, Apple, voilà, on va pas s'attarder. Mais c'est ce qu'on va voir sur la Formule 1, c'est est-ce que sans Bernie Ecclestone, le fonctionnement, les institutions qui existent, la présidence de la F1, etc., est-ce que tout ça, va pouvoir fonctionner seul sans un leader charismatique qui est aujourd'hui Bernie Ecclestone et que pourrait être quelqu'un d'autre après sa mort ou sa retraite si tant est qu'il tombe un jour. Ça, tout de suite quand on pense Bernie Ecclestone,
on le veut mort ou vif quoi. Wanted, $1 million.
Oh, 1 million.
Oui, tu t'étonnes qu'il se rend pas.
C'est lui qui va les payer.
Il offre la récompense pour sa propre capture.
Et il est capable de venir dire écoutez, je me rends, je veux mon argent.
Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux questions de JB et d'Adelin.
Ouais.
Ça semble bien aussi. Vous avez remarqué que j'en avais rien à foutre, hein.
Oui, on a vu ça. C'est la personne que tu t'effaces peu à peu.
Ouais. C'est mon quart d'heure LDR.
Ah, oh, le pauvre.
D'ailleurs, ça va, LDR?
Le ta gueule, c'était juste 5 minutes, LDR, tu peux revenir.
Ça faut.
Depuis la dernière
faut
fois.
Maintenant, on peut dévoiler le secret. C'est toi, Ben. Faut que tu te dépêches quand même, Ben, de donner ton ta gueule.
Bah, il reste.
Parce qu'il reste grosso modo 5-6 minutes dans l'émission, donc.
Ah, voilà. Merde, il faut que je trouve, moi aussi.
Je voulais dire.
T'as toujours pas trouvé Gus Gus, ça fait 2 heures.
J'ai pas réfléchi depuis la dernière intermède.
On te rappelle.
Donc, c'est 150 personnes qui étaient là à une cérémonie d'une distinction.
Oui.
Le trophée Lorenzo Bandini.
Non.
On l'a redonné à Senna parce qu'on a dit si quand même il le mérite vraiment une deuxième fois.
Tu crois que je peux mettre un ta gueule à Gus Gus maintenant?
Au motif de quoi?
Juste parce qu'il faut que j'en mette un. Sinon le titre de l'émission ce sera le SAV sans ta gueule.
Oui mais c'est pas assez vendeur.
Non mais c'est pas possible ça. On ne peut pas oui, terminer l'émission tant qu'il n'y a pas eu un ta gueule. Donc pour le bien de l'émission à la limite je veux bien me sacrifier. Le chevalier blanc, je m'en vais comme un prince.
Il est arrivé comme un voleur, il peut repartir comme un prince.
Oui, c'est vrai.
Ah, je vais mettre le ta gueule juste avant qu'il dise au revoir, en fait, tu vois. Pas con, ça.
Je pourrais pas dire au revoir à mon public.
Techniquement.
Ah non, mais vas-y, continue.
Techniquement, ça peut être ton mot de la fin.
Possible.
Enfin, tes 2 mots. Mais comme on sait que Shinji, il est pas regardant sur les 2 mots, on...
Ah oui, c'est vrai, le mot de la fin, je me souviens pas du...
C'est pareil le truc importé par Shinji, on sait pas comment. C'est amusant, c'est pas mal, mais voilà.
Alors, pour être tout à fait exact, je pense pas que ce soit importé par les... Par...
Ta gueule.
Il est brutal. Il est brutal et il est parti très rapidement, je dirais.
Donc ben voilà, on n'aura jamais le mot de la fin.
Voilà.
J'ai dû faire.
Bon bah sinon, on va rappeler que pour l'émission, donc l'émission suivante, c'est un mag avec une invitée très spéciale.
Ouais. Toi, tu reviens.
Oh le faillot.
De quoi?
J'ai dit tu reviens.
Moi-même, je reviens. Non, je sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé si je revenais. Ça dépend, ça dépend. Mais en tout cas, donc on a une invité, on y aura un invité spécial. Je sais pas si on a
droit de le dire. Bah oui, on peut balancer la sauce maintenant. Hey
bon, c'est Margot Lafitte, c'est la jolie Margot Lafitte qui sera avec nous la semaine prochaine. Donc, est-ce qu'on fait un répondeur je sais pas, est-ce que les...
Alors, on va essayer de... On fera comme d'habitude, hein, les petits questionnaires et compagnie, mais c'est vrai que là, pour le coup, on va peut-être vous donner la possibilité de lui poser des questions sur elle, sur son parcours, sur ce qu'elle pense de la F1 en général et compagnie. Donc, pour ça, vous n'hésitez pas à utiliser le répondeur. On va peut-être aussi mettre en place, par le biais de Fan F1 aussi, une adresse mail pour que vous puissiez poser vos questions à Margot Lafitte. Voilà, on essaiera de les poser dans la mesure du possible. Donc, on rappelle juste, le répondeur, c'est répondeur@savf1.fr. Ou sinon, sur le site du SAV de la F1, vous avez un petit module qui vous permet d'enregistrer un message audio. Donc là, on pourra faire entendre directement à Margot. Donc, vous pourrez être dans les oreilles de Margot. Et là, c'est pas désagréable, quoi.
Donc, sinon, on rappelle également que le SAV de la F1, c'est sur iTunes. On est sur Podcast France. Sur Fan F1, bah oui, bien sûr, sur Fan F1. On est également sur Twitter, sur Facebook. On a également le site savf1.fr. Bah, je crois que c'est tout.
Oui.
Niveau de... Non, on a Alpha de Pod. On a Alpha de Pod
Radio.
Oui,
on est sur
aussi.
Le canal Alpha, ouais, de podradio.fr. Voilà. Et rappelons aussi qu'on a concours top position avec cette question extrêmement difficile, qui était la suivante. Rappelez-vous, sur quel circuit aura lieu le prochain Grand Prix de Hongrie? Réponse A, le Hungaroring. Réponse B, Suzuka. Pour répondre, vous envoyez un mail à l'adresse concours@savf1.fr avec une réponse bonne, de préférence. Et surtout, et là je vais insister, une question de sélection pour vous départager, qui servira à vous départager pour le lot du Grand Prix le Grand Prix de Belgique, qui sera un super lot. Et comme on a eu le cas qui s'est présenté avec Shinji, j'en profite pour le rappeler, on refusera systématiquement à partir de maintenant toute réponse au concours qui ne sera pas accompagnée d'une question de sélection. Voilà. Les conditions, c'est d'ailleurs précisé dans le règlement, les conditions pour participer au concours, c'est vous répondez à la question et vous nous proposez une question de sélection. Donc, sauf circonstances exceptionnelles, et là, Shinji et moi en serons les seuls juges, on n'acceptera pas, donc il n'y aura pas de possibilité d'avoir un ticket pour le tirage au sort pour le casque d'Alain Prost en fin de saison. On n'acceptera pas de réponse, même bonne, s'il n'y a pas une question de sélection accompagnant le mail de réponse. Voilà. Donc pour ça, vous avez jusqu'à fin du mois de juillet, le mardi après le Grand Prix de Hongrie, pour répondre à cette question ô combien difficile, que je vais d'ailleurs vous rappeler tellement elle est difficile. Sur quel circuit aura lieu le prochain Grand Prix de Hongrie? Réponse A, le Hungaroring. Réponse B, Suzuka. Donc Jennifer, je te redonne la main.
Oui.
Tu as le droit de faire cette phrase mythique que Shinji nous lance avec des réponses imprévisibles à chaque fois.
Voilà, parce que le SAV de la F1, c'est...
Le rythme des podcasts.
C'est avec Margot Lafitte.
Oui, ah oui.
C'est... La semaine prochaine, voilà. C'est la famille.
C'est gratuit, c'est... Dans ton cul, on l'a dit aussi une fois, je crois.
C'est dans ton cul,
Fab. Il me semble que c'est dans ton cul, ou c'est ta mère en slip ou un truc dans le genre, je sais plus. Enfin, ta mère en caleçon pour Fab, parce qu'il y tient.
Et puis, on dira pas ce que Gus Gus est en train d'écrire sur le chat, mais...
C'est sympa, mais c'est long.
Ah, ça, c'est une nouvelle phrase. Et donc, on va se quitter. Merci, Jennifer. On en profite vraiment pour... voilà, comme Shinji n'était pas là et comme personnellement, j'ai déjà animé, et voilà. On a proposé à Jennifer de se prêter au jeu de l'animation et elle s'en est bien sortie. Donc, bravo, Jennifer.
Merci. La prochaine fois, ce sera Ben. Voilà.
Ah non, non. Oui.
C'est décidé.
Puisque figurez-vous que Ben, quand on annonce, bon, la semaine peut-être, les gars, il y a Margot Lafitte qui arrive, le premier qui se dit « Oui, c'est bon, je suis là », c'est Ben. Et donc après, à un moment donné, il va falloir trouver le mot de la fin. Donc allez, peut-être pour le mot de la fin, t'as peut-être le droit de revenir, Gus Gus. Mais tu seras le dernier. Donc vous avez un mot de la fin? Bah, ce serait le mot banane.
Le mot banane, ouais. Banane. Bon.
Et toi, Jennifer, banane. Ce sera quoi?
Abricot, je préfère.
Ben?
Ce sera montage.
Ah oui, bonne chance pour le montage. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est bonne chance pour le montage.
Et je crains le mot de la fin de Gus Gus.
Censure.
Censure.
On dit pas au revoir, hein, normalement.
On dit jamais au revoir.
Ah bon?
Ouais, bon, on peut dire au revoir.
Donc ça finit aussi mal que quand tu fais un proverbe, en fait.
Ouais.
Oh, fais chier.
Ouais.
Rien que ça, ça me donne envie de plus venir.
Après, on peut dire au revoir si tu veux voir les gens.
Au revoir les gens.
Salut.
Non.